18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour deux heures d'information. C'est parti pour de l'info, de l'analyse, du débat, évidemment, sur Europe 1. Et c'est votre grand journal du soir. Après plus de deux mois et demi de consultation, le gouvernement a rendu ses arbitrages contre les violences conjugales. Le détail dans un instant dans votre journal. Bonsoir Sébastien Krebs.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Et puis juste après, à 18h20 et jusqu'à 19h ce soir, un grand forum exceptionnel avec des victimes, des associations, mais aussi des politiques. Ce plan du gouvernement contre les violences conjugales est-il suffisant? C'est le grand débat. Brief, le grand forum. Vous avez, vous, également la parole au 39-21. C'est donc sur Europe 1 que ça se passe. C'est l'info qu'il vous faut. Votre grand journal du soir. C'est parti. Jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1? Il est 18h.
Le Premier ministre assume aujourd'hui de reconduire les mêmes politiques publiques qui n'ont pas fonctionné. On marche sur la tête.
Le compte y est-il? Le débat est ouvert. Première réaction plutôt réservée au sein des mouvements féministes. Édouard Philippe a clos ce matin le Grenelle des violences faites aux femmes. Une quarantaine de mesures ont été annoncées.
On les détaille dans quelques secondes et nous ouvrons le débat ce soir. Le collectif Nous Tout appelle à retourner manifester. Nous y serons.
4 morts et 2 disparus sur la Côte d'Azur. Terrible bilan des inondations spectaculaires du week-end. La décrue est amorcée. L'heure est au nettoyage.
On a surtout du matériel électrique, des machines. On va laisser sécher et puis il y a une bonne partie déjà à la poubelle. Hein. Surtout avant Noël, c'était sûrement pas le moment.
Nous serons sur place avec les sinistrés.
Les discussions de la dernière chance à 10 jours du 5 décembre, les syndicats défilent à Matignon.
Ambiance plutôt glaciale, vous verrez, même avec le patron de la CFDT. Dans ce journal également, climat délétère au conseil municipal de Marseille, le maire Jean-Claude Gaudin, épinglé par la chambre régionale des comptes.
Et puis un couple de Français tués par balle en Haïti. Ils venaient d'atterrir pour adopter un enfant.
On vous racontera le casse du siècle en Allemagne, des bijoux anciens exceptionnel dérobé. Il y en a pour 1 milliard d'euros. Et puis la petite phrase du jour est signée Zinedine Zidane.
Yo estoy ya enamorado de él, pero como... Primero como persona.
Enamorado, Zidane, entraîneur du Real, est amoureux. Il fait une déclaration d'amour à un certain Kylian Mbappé à la veille de sa venue à Madrid avec les Parisiens. La bourse de Paris termine en hausse ce soir de 0,54% à 5 924 points.
Bonsoir Anissa.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
La tendance météo avec vous.
Alors un département, celui de la Gironde, reste en vigilance orange au cru. Je vous donne le détail à la fin du journal. Et puis demain, plus de pluie, ça fait du bien. Ça y est, ça s'arrête dans le sud-est. En revanche, une nouvelle perturbation arrive par l'ouest.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Les financements sont là, ils sont massifs, il ne manque pas d'argent pour lutter contre les violences conjugales. Voilà l'assurance du Premier ministre ce matin au moment d'annoncer les mesures issues du Grenelle des violences faites aux femmes. Alors même que les premières réactions étaient très réservées, on va les entendre dans un instant. D'abord le détail des mesures avec vous, Ève Roger, bonsoir.
Bonsoir.
Il y en a une quarantaine, on en connaissait déjà une partie, mesures pour éloigner les conjoints violents, pour mieux recueillir la parole des victimes, avec notamment ce numéro, le 39-19, qui va être renforcé.
Et oui, le numéro d'écoute pour les femmes victimes de violences sera bientôt ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et les besoins sont là, expliqué ce matin Édouard Philippe. On est passé de 150 appels par jour au début du Grenelle à 600 aujourd'hui. D'ici janvier aussi, plusieurs mesures se traduiront par une proposition de loi. L'exercice de l'autorité parentale pourra être suspendu ou aménagé pour un homme en cas de condamnation et retiré de plein droit en cas de féminicide. Les enfants seront déchargés de ce qu'on appelle l'obligation alimentaire envers leur père devenu vieux s'il a tué leur mère. Et puis les peines seront aggravées en cas de suicide forcé, en clair, si l'on prouve qu'un homme a poussé sa compagne à se tuer. Dans cette loi enfin, la levée partielle du secret médical pour les professionnels de santé qui voudraient signaler des violences conjugales. Le Premier ministre a aussi promis ce matin que les hommes auteurs de violences seraient mieux suivis et pris en charge dès le début de l'enquête pour évaluer leur dangerosité, analyser par exemple leur rapport à l'alcool et pour éviter la récidive. Il a aussi annoncé son souhait de créer 2 centres pour hommes violents par région.
Alors Eve, on a entendu très vite les premières critiques au sein des militantes féministes. Première réaction, celle de Caroline Dehas, porte-parole du collectif Nous Toutes.
On a besoin de moyens supplémentaires si on veut faire reculer les violences. Le Premier ministre assume aujourd'hui de reconduire les mêmes politiques publiques qui n'ont pas fonctionné. On marche sur la tête, complètement. On attendait, des moyens suffisants pour mener des politiques efficaces. Et en matière de politique publique, on attendait en priorité des mesures pour l'éducation à l'école, des mesures pour la formation des professionnels et des places d'hébergement dédiées pour les femmes victimes. Sur ces 3 éléments, qui étaient les demandes prioritaires des associations et de nous toutes, c'est zéro pointé.
Voilà, Caroline De Haas au micro de Victor Delande. Caroline De Haas avec son mouvement Nous Toutes qui appelle à manifester à nouveau ce soir. Eve Roger, je reviens vers vous. Elle dit zéro pointé. Toutes les associations sont déçues.
Et non, pas à ce point-là. La Fondation des femmes, par exemple, salue le retrait de l'autorité parentale ou la fin de l'obligation de subvenir aux besoins de parents meurtriers. Mais elle pointe aussi, et c'est vrai, aussi toujours le manque de moyens. 360 millions d'euros annoncés pour la seule année 2020 et indique que les associations reçoivent 30 à 40% de plus de demande d'aide de la part des femmes en détresse depuis le début du Grenelle. Pour y répondre, elles ont besoin non seulement de plus d'argent, mais aussi de 2000 places d'hébergement spécialisées. C'est deux fois plus que les 1000 créées par le Grenelle.
Eve Roger, chef du service Société d'Europe 1, merci. Et cet après-midi, Emmanuel Macron, pour marquer la fin de ce Grenelle, s'est rendu au tribunal de Créteil pour rencontrer une femme victime de violence et également les personnels qui sont chargés de l'accompagnement de ces victimes.
Et nous ouvrons le débat ce soir, grand forum exceptionnel jusqu'à 19h et à partir de 18h20 avec des victimes, des associations, mais aussi la députée La République En Marche qui a copiloté les Grenelles locaux dans toute la France. Bien sûr, vos appels, vos témoignages, on sera dans cette mobilisation aussi des Nous Toutes tout à l'heure rue de Varennes à Paris.
Il est 18h05 sur Europe 1, la suite du journal Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
L'heure est au nettoyage hein, sur la Côte d'Azur après les inondations, Sébastien, spectaculaire pour le mois hein, du week-end.
Oui, la décrue est amorcée hein, ce soir, mais il reste toujours beaucoup de routes et de voies ferrées coupées dans le Var et les Alpes-Maritimes où ces inondations ont été meurtrières. Hein. 4 morts, 2 disparus sont toujours recherchés. Les sinistrés commencent à chiffrer les dégâts, c'est aussi le cas pour les entreprises. Frédéric Michel, vous êtes près de Cannes, zone d'activité des tourades. Pour les commerces, l'enjeu, c'est évidemment de pouvoir redémarrer au plus vite.
Effectivement, Sébastien, certains commerces ont d'ailleurs pu rouvrir dès cet après-midi, après une grosse matinée de nettoyage. Alors les situations sont très différentes selon l'emplacement des sociétés sur cette zone des tourades. Il y a les magasins qui n'ont pas du tout été impactés, hein. Ils sont majoritaires et accueillent normalement leur clientèle. Et il y en a d'autres situés sur un terrain un peu plus bas qui ont vu l'eau monter jusqu'à 1 mètre parfois, 40 cm chez Nord Auto, où j'ai pu mesurer l'étendue du sinistre avec le directeur Stéphane Lannes.
Voilà, je laisse constater les dégâts. Hein, c'est...
Là, vous allez perdre beaucoup d'argent.
Oui, on va perdre au moins un minimum de jours d'ouverture. Déjà, dans un premier temps, expertiser les dégâts et dans un deuxième temps, nettoyer. Donc là, cette période de l'année où on va commencer à préparer les fêtes, il va falloir être très réactif.
Oui, parce qu'il faut faire venir très rapidement hein, de nouveaux produits. Bien souvent, les stocks ou les marchandises qui étaient en rayon ont été renversés et ont passé des heures dans l'eau. Dégrader ces produits, que ce soit de l'outillage, des habits, de l'alimentation, ces produits sont invendables. Alors évidemment, tous ces commerçants, déjà très marqués par les heures difficiles qu'ils viennent de passer, ces commerçants espèrent être remboursés correctement. Paul Belletran, dirigeant d'une entreprise familiale de nettoyage.
On a surtout du matériel électrique, des machines. On va laisser sécher et puis il y a une bonne partie déjà à la poubelle. Hein. On a déjà rempli 3 containers 660 litres. Et là, surtout avant Noël, c'était sûrement pas le moment. Quoi. Bon, après, j'espère que les assurances vont entrer en compte. Hein. Je sais pas si on est passé en catastrophe naturelle ou pas.
Et la municipalité de Cannes, où se situe une partie hein, de cette zone commerciale, vient de demander que soit reconnu l'état de catastrophe naturelle.
Frédéric Michel, en direct depuis les environs de Cannes, correspondant d'Europe 1, bien sûr, sur la Côte d'Azur. On l'a appris ce soir, une élève de 18 ans a tenté de se suicider cet après-midi en s'immolant par le feu dans son lycée. Ça s'est passé au lycée Clémenceau à Villemomble, en Seine-Saint-Denis. La jeune fille de 18 ans s'est ensuite défenestrée donc d'une salle de classe. Il semble qu'elle souffrait de troubles psychologiques. Elle a été transportée à l'hôpital dans un état très grave.
Le compte à rebours avant la journée de mobilisation du 5 décembre. Compte à rebours déjà bien amorcé. Dernière concertation marathon d'ici là à Matignon.
Oui, depuis ce matin et jusqu'à demain, tous les syndicats défilent face au Premier ministre Édouard Philippe et au haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye. Et l'atmosphère a l'air glaciale. La journée noire dans 10 jours paraît inévitable. On surveillait notamment aujourd'hui l'avenue du patron de la CFDT, Laurent Berger. Et le dialogue n'a pas l'air d'avoir été très fructueux. Écoutez-le.
Je vais être très clair, c'était une réunion d'échange qui était encore une réunion de concertation où nous on a beaucoup appuyé sur la question de la pénibilité, sur la question des transitions, sur la question du minimum contributif, sur tous les éléments qui sont les revendications de la CFDT. Le Premier ministre a écouté et il reçoit d'autres organisations syndicales et patronales dans les jours à venir. Il n'y a évidemment pas eu de réponse à ce stade à ce que nous avons porté.
Voilà Laurent Berger qui déplore l'absence de réponse au micro d'Olivier Samin. Demain, ce sera au tour notamment de la CGT et dimanche prochain, Édouard Philippe a convoqué tous les ministres pour une réunion dédiée quelques jours avant la grève à, je cite, caler la feuille de route sur cette question des retraites.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
À suivre dans votre journal de 18h, climat politique pour le moins délétère à Marseille après un rapport qui accable la gestion de Jean-Claude Gaudin.
Et puis le casse du siècle, des diamants, des rubis, trois parures d'une valeur exceptionnelle dérobée dans un musée de Dresde en Allemagne. Il y en a pour 1 milliard d'euros.
Votre grand journal du soir, toute l'info qu'il vous faut, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h10 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Et ce climat politique pour le moins délétère à Marseille, Sébastien, la bataille des municipales, on peut le dire, elle est bel et bien lancée.
Oui, bataille engagée pour la succession de Jean-Claude Gaudin, le maire depuis 25 ans et dont la gestion de la ville est épinglée dans un rapport de la Chambre régionale des comptes, rapport accablant pour l'équipe sortante, pratiques immobilières douteuses, situation financière préoccupante. Évidemment, l'opposition s'en délecte. Nathalie Chevance, le conseil municipal du jour a tourné au règlement de compte.
Oui, règlement de compte entre Jean-Claude Gaudin et les magistrats financiers accusés de donner des coups de matraque sur l'équipe municipale qui s'est employée à pointer toute une série d'erreurs relevées d'après elle dans le rapport. Travail qualifié de caricatural, un pamphlet politique pour le maire très en colère.
Je sais que j'ai pas tout bien fait. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais j'ai mis tout mon cœur, j'ai mis tout mon temps. Et ce réquisitoire que nous avons reçu et auquel nous avons répondu m'affecte considérablement comme d'autres événements.
Règlement de compte ensuite avec l'opposition municipale. Votre équipe est nulle, s'époumone Stéphane Ravier, gouvernance étriée par le candidat RN à la mairie.
Où est passé l'argent, monsieur le maire? Qu'en avez-vous fait, vous et votre équipe? L'avez-vous utilisé pour financer vos projets aussi coûteux qu'inutiles? Où est passé l'argent des Marseillais, car il n'a pas été investi non plus dans les écoles, ni dans le traitement de la qualité de l'air, ni dans les infrastructures routières de la ville? Alors où est passé l'argent?
Un rapport qui tombe à pic aussi pour la gauche municipale en campagne, qui accuse l'équipe sortante de piller la ville, un système dénoncé par le socialiste Benoît Payan.
La maladie, c'est votre système politique qui fait de l'électoralisme l'alpha et l'oméga de toutes vos décisions. C'est un système qui préfère flatter les soutiens que répondre aux besoins. C'est une ville où on rénove les écoles parce que les parents votent bien, pas parce que les petits ont froid.
Et au final, le rapport de la Chambre régionale des comptes aura donné le coup d'envoi d'une campagne municipale qui s'annonce brûlante.
Nathalie Chevance en ligne de Marseille pour Europe 1. C'est une icône de l'Amérique qui devient un peu française. Voilà les mots de Bernard Arnault, le patron d'LVMH, qui célèbre son nouveau joyau, la plus grosse acquisition de son histoire, avec celle bien sûr du joaillier Tiffany. 16 milliards de dollars confirmés ce matin, on y revient bien sûr dans le journal 19h.
Un couple, Sébastien, un couple de Français a été tué hier après-midi en Haïti. Hein.
Oui, tué par balle alors qu'il venait d'atterrir à Port-au-Prince, la capitale. Jeanne Bergaoui, on en sait un peu plus sur les circonstances. On sait que ce couple se rendait en Haïti pour adopter.
Oui, selon nos informations, il s'agit d'un couple d'une quarantaine d'années sans enfants qui venait tout juste d'arriver en Haïti. Hier après-midi, alors qu'ils sortent de l'aéroport de Port-au-Prince, la capitale, les deux Français montent dans un taxi en direction de leur hôtel. Et c'est là, devant cet hôtel, qu'ils sont attaqués. C'est d'abord la femme qui est abattue, puis son compagnon. Alors voilà ce que nous pouvons vous dire ce soir sur les circonstances du meurtre de ce couple qui était donc lancé dans une procédure d'adoption en Haïti. Évidemment, l'émotion est très vive dans le petit village de Saint-Martin d'Ardèche, d'où venait ce couple et où toute leur famille réside. Les deux jeunes gens étaient très appréciés, ils y vivaient depuis toujours et tout le monde les connaissait, selon un ami qui vient tout juste de nous parler et qui se trouve en ce moment avec les proches. Ce double meurtre intervient dans un contexte politique et social très tendu, marqué par des manifestations violentes. Selon l'ONU, 42 personnes ont déjà perdu la vie dans ces affrontements.
Jeanne Bergaoui. Et puis le parquet de Paris a ouvert une enquête aujourd'hui après l'enlèvement d'un touriste français au Mexique, kidnappé avec un ressortissant mexicain dans un parc national proche de Mexico. Enlevé par des hommes armés, les autorités françaises se disent mobilisées pour le retrouver au plus vite.
Est-ce le casse du siècle? En tout cas, ça pourrait y ressembler, puisque c'est un cambriolage digne d'un film qui a eu lieu, Sébastien, en Allemagne.
Les voleurs se sont introduits au cœur de la salle du trésor du château des rois de Saxe à Dresde, qui possède l'une des plus grandes collections de bijoux anciens. Hélène Kohl, vous êtes notre correspondante en Allemagne. La valeur du butin est effarante, on parle d'un milliard d'euros.
Oui, ce sont des bijoux sertis de pierres précieuses avec des dizaines de diamants et des rubis, trois parures au total. Les voleurs sont allés directement à la vitrine principale. On le voit sur les images de la caméra de surveillance dans la salle. Ce sont deux personnes de petite taille qui se sont enfuies ensuite en passant dans une conduite d'évacuation. Ils ont fait leur coup en quelques minutes alors même que le personnel de sécurité du musée se trouvait dans le bâtiment. Quelques minutes avant le casse, le transformateur électrique qui alimente le musée avait pris feu. La police est encore prudente, mais sans doute a-t-il été incendié par les cambrioleurs ou par leurs complices pour mettre tout le quartier dans l'obscurité ou pour détruire, en tout cas ralentir, le système de sécurité. Les voleurs sont ensuite passés par une fenêtre en démontant la grille en fer qui la protégeait. Ils ont même pris le soin de la remettre en place derrière eux. Ils ont agi rapidement, mais dans le calme. Tout ça s'est passé en quelques minutes entre 4h59 du matin et 5h20. Ce musée de la voûte verte à Dresde, comme on l'appelle, abrite l'une des plus importantes collections de bijoux anciens du monde. Et son joyau est un diamant de 41 carats, un diamant vert, qui se trouve actuellement, ouf, dit-on ici, à New York pour une exposition temporaire.
Miraculeusement sauvée. Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 à Berlin. Merci.
Et on va terminer ce journal avec la petite phrase du jour. Hein. C'est en Espagne. La petite phrase est signée, et en espagnol, s'il vous plaît, de Zinedine Zidane.
Et c'est une petite déclaration d'amour qu'a donnée l'entraîneur du Real Madrid à un certain Kylian Mbappé. Écoutez.
Yo estoy enamorado de él, pero como... Primero como persona.
Voilà, je l'aime au moins comme une personne. Enamorado, il dit Zidane, littéralement, donc amoureux de Kylian Mbappé. Et ça fait un moment, dit-il. Déclaration tenue en conférence de presse tout à l'heure, à la veille du choc à Madrid entre le Real et le PSG. Ce sera en Ligue des Champions. Mbappé sera bien sûr du voyage. Voilà une petite phrase qui risque de faire tiquer une nouvelle fois les dirigeants parisiens qui s'étaient déjà agacés des multiples appels du pied de Zizou à l'égard du jeune prodige parisien ces derniers mois. On parlera évidemment du match. Demain, c'est demain 21h, Real PSG.
Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Sébastien. L'info revient avec vous dans 15 minutes.
Été comme hiver, les pneus 4 saisons Hankook s'adaptent à la route. Hankook vous présente la météo.
Anissa, le temps redevient calme dans le sud-est.
Oui, c'est une bonne nouvelle, ouais. Effectivement, hein, pour tous les auditeurs d'Europe 1 qui sont sinistrés ce soir avec cet épisode méditerranéen qui a été très violent ce week-end. Alors demain, du Pays Basque jusqu'aux Alpes, en passant par Languedoc-Roussillon, le golfe du Lion, la vallée du Rhône, la Côte d'Azur et la Corse, là, le ciel est voilé demain matin. Et puis, il se dégage, ce ciel, et vraiment, dans l'après-midi, vous aurez une très belle journée, un ciel très lumineux et de belles éclaircies. Sur les Landes, le Limousin, le massif central, le Jura et l'Alsace. Après la dissipation des nuages matinaux, là, le soleil va faire quelques petites percées. C'est à l'ouest, en fait, demain, que la journée sera la moins belle, avec au nord, en Champagne-Ardenne, le Nivernais, la région parisienne, le centre Val-de-Loire, le Bordelais, les Pays de la Loire, la Normandie, la Bretagne, des pluies de plus en plus intenses au fil des heures, avec même des orages sur les côtes l'après-midi, donc soyez très prudents.
On note quand même un département toujours en vigilance. Hein.
Oui, alors ce département, c'est le département de la Gironde, les coefficients de marée restent très élevés, des débordements sont attendus sur la confluence Garonne-Dordogne, donc soyez très très prudents dans ce secteur, on garde un œil sur la Gironde, et demain les températures sont vraiment plus douces, 2 à 11 le matin.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
On zoome ce soir, on débrief précisément sur ce plan gouvernemental contre les violences conjugales annoncé ce matin par le Premier ministre, également Marlène Schiappa. Qu'en pensent les victimes, les associations? On va prendre le temps de vous écouter également, vous les auditeurs. C'est un grand forum exceptionnel jusqu'à 19h, ça démarre dans 2 minutes.
Et vous pouvez intervenir, n'hésitez pas à réagir. C'est le 39-21 que vous pouvez composer dès maintenant. Vous pouvez réagir également sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir. C'est jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy. C'est un grand forum exceptionnel ce soir jusqu'à 19h sur Europe 1. Le plan gouvernement contre les violences conjugales est-il suffisant? Vos invités, Nathalie, Margot Collet, militante aux aides féminisme, Bérangère Couillard qui est députée La République En Marche et Alizée Bernard qui est victime de violences conjugales et auteur de Silence on cogne, paru aux éditions Grasset, et toutes vos réactions en direct au 39-21.
Bonsoir mesdames.
Bonsoir.
Merci
Bonsoir.
D'avoir accepté notre invitation ce soir dans ce studio pour refaire le film en quelque sorte, pour essayer de comprendre en fait ce qui crée pas mal de déceptions quand même ce soir autour des annonces faites par Édouard Philippe et par Marlène Schiappa à la mi-journée. Du coup, je vais vous donner la parole en premier, Margot Collet, si vous le voulez bien, parce que j'aimerais bien savoir, il y a quand même une quarantaine de mesures annoncées. On va en citer évidemment quelques-unes, notamment l'entrée de l'emprise dans le code pénal et civil, l'aménagement du secret médical, la prise en charge des auteurs de violences conjugales. Bien sûr, autour du 39-19, on insiste, on salue, on a la fin de l'obligation de subvenir aux besoins du parent meurtrier. Et puis, on en citera évidemment un petit peu plus tard. Qu'est-ce que vous dites, vous, ce soir ?
Alors nous, ce qu'on dit, c'est que effectivement, ce Grenelle, il intervient dans un contexte où on a une mobilisation sans précédent sur la question des violences sexistes et sexuelles, notamment de la part de la société. Mmh. Aujourd'hui, c'est pas uniquement les associations féministes qui se mobilisent. On a eu 150 000 personnes dans la rue ce week-end. C'est la plus grosse manifestation sur les questions de violences sexistes et sexuelles. Mmh. Donc aujourd'hui, on attend, enfin, une grande partie de la société attend des réponses et des mesures très concrètes sur ces sujets-là.
Là, il y a des mesures concrètes dans ce que j'ai indiqué. C'est pas, je sais pas, vous hochez de la tête pour dire plutôt non.
Quand on annonce un Grenelle, je pense qu'on s'attend à une mobilisation sans précédent, à ce qu'on marque un avant et un après, qui a un vrai changement de moyens, de mesures, un changement d'échelle. Et là,
le compte n'y est pas.
On est très loin d'un changement d'échelle et de marquer un avant et un après dans la lutte contre les violences conjugales, sexistes et sexuelles de manière générale.
Alors, on va essayer quand même d'avancer et d'aller voir un petit peu plus dans le détail dans une seconde. Bérangère Couillard pour La République En Marche, entre autres, vous êtes députée de Gironde, vous avez copiloté ces Grenelles locaux parce que c'est 3 mois quasiment d'aller-venue, de consultation, de rendez-vous, d'échanges, etc. Vous entendez Margot Collet, et puis évidemment, je vais vous donner la parole dans une seconde, Alizée Bernard. Globalement, c'est la tonalité depuis la mi-journée, c'est la déception.
Écoutez, moi, je ne partage pas l'avis de Margot évidemment. Collet, mais voilà, j'ai évidemment travaillé depuis plusieurs semaines, accompagné de nombreux députés sur un groupe de travail que nous avons réalisé, donc vous l'avez dit, des mini-grenelles partout en France, rencontré plus de 500 acteurs. Le gouvernement, lui aussi, a mené ces groupes de travail, 11 groupes de travail thématiques. Il en est ressorti un travail extrêmement collaboratif avec les associations, les acteurs de la justice, de la police, l'éducation nationale, le personnel des prisons, etc. Et du coup, on a un plan ambitieux. Ce plan ambitieux, il est sur 3 piliers. Le premier, c'est la prévention et la formation, où là, on a des annonces quand même très importantes. On a l'éducation à l'égalité femmes-hommes pour les jeunes, les plus jeunes, que ce soit au collège, au lycée. On a également une formation dans le SNU. On a également la formation des différents acteurs, notamment Nicole Belloubet avait annoncé la formation de l'ensemble des magistrats. Alors, tous les deux ans, la formation des policiers, la formation
on va essayer d'aller sur quelques points parce qu'on ne pourra pas passer les 40 mesures en revue, évidemment.
Non, je ne le ferai pas.
Mais voilà, on va essayer d'aller point par point dans un instant. Alizée Bernard, parce que vous avez été victime, parce que vous avez signé ce livre « Silence, on cogne » aux éditions Grasset avec Sophie Boutboul, parce que elle a mené avec vous, Sophie Boutboul, cette enquête sur les violences conjugales. Vous, en tant que victime, est-ce que vous dites ce soir « Ben voilà, on a été entendu, ça y est, ça va bouger ».
Les violences que j'ai subies, moi, elles ont été perpétrées déjà par une personne avec un statut assez particulier,
bien sûr.
Et qui est finalement un angle mort de ce Grenelle et qui n'a pas été évoqué.
Alors, ce qu'on va préciser, effectivement, c'est votre histoire. En quelques mots, double difficulté dans votre cas, ce statut de votre conjoint gendarme et votre vie, cet isolement aussi en caserne.
Oui, alors la caserne, j'y ai pas vécu pendant suffisamment longtemps. Mais ensuite, il était réserviste. Et en effet, on se sent isolé parce que la personne qui finalement est auteur de violences conjugales est censée aussi nous protéger. Et malheureusement, j'ai pas eu accès facilement aux services de gendarmerie ni de police.
Quand vous entendez quand même ces mesures-là, l'annonce de ces 40 mesures, est-ce qu'il y en a une où vous dites quand même, une ou plusieurs, où vous dites quand même, il se passe quelque chose, on a compris aujourd'hui qu'il y avait une urgence absolue ?
Celle que je trouve bien dans cette
mesure, la plus emblématique,
c'est le 3919, qui n'écoute 24 heures sur 24. Maintenant, dans l'immédiat, je ne suis pas sûre que ça aide véritablement les femmes qui sont véritablement en danger chez elles. Et maintenant, c'est une écoute. Moi, le soir du 9 avril, qui a marqué la fin de ma relation avec mon ex-compagnon, j'ai tenté de les appeler et il n'y avait pas de permanence au moment où j'ai voulu les contacter.
Ce ne sera plus le cas ?
Ce ne sera plus le cas, parce que le 3919, ce sera un numéro maintenant qui sera consultable, qui sera du coup disponible 24 heures sur 24. Donc c'était une demande essentielle des associations, des victimes. Et évidemment, c'était quelque chose à laquelle il fallait répondre, parce que comme ça, une victime pourra appeler nuit et jour.
Jean-Jacques Herry est avec nous pour Europe 1 dans ce nouveau rassemblement. Le collectif Nous Toutes qui est mobilisé encore ce soir à Paris, rue de Varennes précisément. Bonsoir à vous Jean-Jacques Herry.
Bonsoir.
Dites-moi, de nouveau, on donne de la voix parce que, de nouveau, comme samedi, on indique qu'on est déçu par les annonces.
Oui. Ah oui, la déception est partout ici, hein, et les slogans résonnent maintenant depuis une bonne demi-heure. Une soixantaine de militantes et aussi quelques militants sont réunis pour montrer que le mouvement ne s'essouffle pas et surtout pour s'indigner des annonces ce matin d'Edouard Philippe. On veut un milliard, pas des bobards, peut-on entendre. Les associations estiment ne pas avoir été entendues. Elles dénoncent une immense opération de communication et entre les slogans retentissent beaucoup de sifflets puisque vous savez, on est tout près ici de l'hôtel de Matignon, ce qui est tout proche. Et en fait, ce que dénonce la majorité des militantes, c'est que tout ce qui a été annoncé, finalement, devrait être déjà en place ou est déjà en place. Et ça, c'est effectivement ce qui cristallise la déception ici.
Jean-Jacques Héry pour Europe 1, rue de Varennes, juste à côté de Matignon, pour dire une fois encore donc cette déception du côté des associations des victimes. On va évidemment revenir dans le détail sur certaines de ces mesures. J'aimerais bien entendre votre réaction parce que quand même la grille d'évaluation pour les forces de l'ordre, par exemple la levée du secret médical, typiquement Margot Collet et puis vous bien sûr Alizée Bernard, j'aimerais bien savoir si ça fait sens quand même à vos oreilles dans une seconde.
Et vous pouvez vous aussi réagir, hein. N'hésitez pas à participer à ce grand forum, ça se passe au 39-21 le standard d'Europe 1 et sur les réseaux sociaux Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec ce grand forum exceptionnel ce soir jusqu'à 19h après l'annonce du plan du gouvernement contre les violences conjugales. Mais d'abord, les titres avec vous Sébastien Krebs.
Quelques dizaines de militantes du collectif féministe Nous Toutes rassemblées à Paris. Pour elles, le compte n'y est pas. Après la clôture donc, de ce Grenelle des violences faites aux femmes, une quarantaine de mesures annoncées. Renforcement du numéro d'écoute 3919, des centres de prise en charge pour hommes violents et la notion d'emprise ajoutée au code pénal. À 10 jours du 5 décembre, concertation marathon à Matignon sur les retraites. Le MEDEF ce matin, la CFDT cet après-midi ont défilé face au Premier ministre. Le patron de la CFDT, Laurent Berger, déplore l'absence de réponse sur le calendrier de la réforme. Une élève de 18 ans s'immole par le feu au cœur de son lycée. Ça s'est passé cet après-midi à Villemomble, en Seine-Saint-Denis. Elle s'est jetée du premier étage et a été hospitalisée dans un état grave. Plus de précisions dans le journal de 19h. Uber prend un coup sérieux à Londres. L'autorité de régulation des transports lui retire sa licence. Elle estime que le géant du VTC met en danger la sécurité de ses passagers. Et puis la nouvelle alerte de l'ONU sur le climat, aucun signe d'amélioration. Les concentrations de gaz à effet de serre ont atteint un nouveau record en 2018, malgré les engagements pris au sein de l'accord de Paris.
Merci Sébastien. L'info à 19h avec vous pour un nouveau journal complet. Anissa, retour du calme dans le sud ?
Oui, ça fait du bien. Effectivement, demain, c'est une très belle journée qui vous attend du Pays Basque jusqu'aux Alpes, hein, donc sur une belle quand même partie sud de la France. Du grand et beau soleil sans aucun nuage demain après-midi. En revanche, attention, c'est une nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest demain, donc de la Normandie jusqu'à la Gironde. Il va pleuvoir assez fort demain matin. Ces pluies, elles vont s'intensifier dans l'après-midi avec des orages prévus sur les côtes. Et puis ces pluies, elles se déplacent. Et demain, elles vont toucher le Nord, la Champagne-Ardenne, le Nivernais, la région parisienne et même les Pays de la Loire. Donc soyez très prudents dans ces secteurs. Les températures, elles sont assez douces demain. 2 à 11 degrés, nous aurons 10 au lever du jour à Paris.
Europe 1.
Et la suite de votre grand journal du soir avec ce grand forum exceptionnel ce soir, Nathalie Lévy, jusqu'à 19h. Avec cette question, le plan du gouvernement contre les violences conjugales est-il suffisant ? Cette question, vous la posez à vos invités. Nathalie, ce soir, vous recevez Margot Collet, elle est militante aux aides féminisme, Bérangère Couillard, députée de La République En Marche, et Alizée Bernard, victime de violences conjugales et auteure de Silence, on cogne, un livre paru aux éditions Grasset.
Nos invités sont en studio. On va essayer d'aller sur les mesures les plus emblématiques de ces annonces faites à la mi-journée. Évidemment, vos réactions, c'est au 39-21.
1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et ce grand forum ce soir. Le plan du gouvernement contre les violences conjugales est-il suffisant ? Cette question, vous la posez aux auditeurs d'Europe 1, évidemment au 39-21 et à vos invités. Margot Collet, militante aux aides féminisme, Bérangère Couillard, députée La République En Marche et Alizée Bernard, victime de violences conjugales et auteure de Silence, on cogne chez Grasset.
Alors je voudrais, mesdames, s'il vous plaît, qu'on revienne sur quelques mesures emblématiques, puisqu'il ne s'agit pas évidemment de les reprendre les 40, mais je voudrais comprendre avec vous, Margot Collet, et avec vous, Bérangère Couillard, notamment, bien sûr, Alizée Bernard, vous allez évidemment nous refaire votre parcours, mais bon, moi quand je vois la grille d'évaluation pour les forces de l'ordre, qui doit permettre normalement de mieux prendre compte l'étendue des violences, est-ce que vous saluez, oui ou non, Margot Collet et à Oser le Féminisme, ce dispositif ?
Oui, une grille d'évaluation, c'est bien. Ça existe déjà d'ailleurs dans de nombreux commissariats. Mmh. Donc c'est une mesure qui va pouvoir être généralisée à l'ensemble des commissariats. Donc c'est une bonne base, c'est un bon outil. Mmh. Après, cette grille, il faut la remplir, il faut être formé pour. On sait aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'un audit pour le savoir, que l'accueil en commissariat et en gendarmerie, en commissariat de police et en gendarmerie, alors, est très loin d'être irréprochable. Donc ça passe aussi par la formation. Et nous, on considère aussi que les personnes qui reçoivent mal, incorrectement, refusent de prendre les plaintes, doivent être sanctionnées, parce que toutes ces mesures-là, elles existent déjà sur le papier. Le problème, c'est l'application.
C'est
donc
ça.
Une grille, c'est bien.
Une grille,
ça
c'est bien,
tous les
mais,
problèmes,
la formation, mais la formation, c'est essentiel, Bérangère Couillard. Sur la formation particulière pour les personnels de police, de gendarmerie.
Oui, mais écoutez, en tous les cas, je tiens à souligner que la grille est essentielle, en effet, pour pouvoir prendre en considération tout ce qui peut intervenir et tout ce qui peut créer le drame. Notamment, on parle de présence d'armes dans le domicile. Ça va nous permettre derrière, nous, dans la proposition de loi, justement, de saisir les armes et donc, du coup, de pouvoir éviter certains drames. Concernant la formation, en effet, il y a des formations, comme je vous l'ai dit, pour les magistrats, pour les avocats.
Mais ça, c'est un deuxième temps, pardonnez-moi.
Il y a également des formations en cours pour les jeunes policiers, justement, qui rentrent du coup dans leur formation. Et du coup, c'est mis en place complètement par le ministère de l'Intérieur.
Comment vous avez fait, Alizée Bernard ? Vous, évidemment, on l'a dit, votre conjoint, gendarme, l'isolement, une forme d'isolement en caserne. Comment vous avez fait pour réussir à vous exprimer ?
Je l'ai enregistré à son insu. Parce que les passages aux urgences ne suffisaient pas, malheureusement. C'est sa parole contre la mienne. Ça se passe à huis clos. Et il sait très bien vous le dire que quand finalement on vous entendra, y a quelqu'un qui ne vous écoutera pas parce que lui, il a agréé à s'armenter et que votre parole n'a pas finalement d'écho face à ces personnes. Je tiens à rebondir quand même sur la formation. Parce que former, c'est bien. Oui. Mais ça serait bien aussi de les identifier en interne, parce que je ne suis pas un cas isolé. Il y a beaucoup de femmes qui s'expriment au travers de ce livre. Mmh. Et malheureusement, il y a également des auteurs de violences conjugales qui peuvent recevoir des victimes de violences conjugales, ou des personnes qui vont aider un collègue qui a été auteur de violences conjugales. Donc comment ils vont recevoir cette personne ? Est-ce qu'ils vont minimiser les faits ? Est-ce qu'ils vont la renvoyer chez elle ? Et finalement, c'est quelque chose sur lequel on ne se pose pas de questions aujourd'hui. Et je rebondis également sur l'arme, le retrait du port d'armes. Est-ce que c'est quelque chose qui va être étendu ?
La saisie des armes.
Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui va être étendu aux policiers et aux gendarmes auteurs de violences conjugales ?
C'est une bonne question. Je ne saurais pas vous répondre.
C'est intéressant de l'avoir posé. C'est honnête de votre part de nous dire que vous ne savez pas. Et moi, c'est moi maintenant qui rebondis, Alizée Bernard, sur ce que vous venez de nous dire. Vous ? Quand typiquement vous avez commencé à en parler, la corporation, les collègues gendarmes, ils vous ont dissuadé ?
Oui, on m'a dissuadé de déposer plainte en me disant qu'il fallait que je pense.
Donc des gendarmes, pardonnez-moi, en fonction, hein, j'insiste.
En fonction, tout à fait. Lors de mon audition, le lendemain du 9 avril, on m'a dit qu'il fallait que je pense au fait que si je déposais plainte, il risquait de perdre son travail. Donc je ne suis pas mise en position de victime, mais finalement de l'autre côté et de ce que je vais infliger à mon agresseur.
Je voudrais aller sur une deuxième mesure importante, la levée du secret médical. Est-ce que c'est une avancée, Margot Collet, pour oser le féminisme, que vous reconnaissez ? Les médecins pourront dénoncer des cas de violence évidents. C'est un vrai réflexe, là. C'est...
En fait, les médecins, aujourd'hui, peuvent déjà lever le secret médical.
En cas de danger de mort.
En cas de danger de mort, voilà. De danger imminent. Quand il y a des violences conjugales, il peut y avoir un danger de mort. Moi, je pense, comme de nombreux médecins qui sont spécialisés et qui accompagnent des victimes, que c'est une fausse bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, les médecins, c'est les premiers professionnels vers lesquels les femmes se tournent. Et toutes les associations le disent. On ne fait pas à la place d'une femme. On ne porte pas plainte à sa place. Si elle se sent en insécurité, si elle est convoquée dans un commissariat suite à un signalement du médecin et qu'elle dit non, il s'est trompé, il a mal interprété. Qu'est-ce que va dire son dossier ? Madame a dit qu'elle avait tout inventé, qu'elle s'était trompée, qu'elle était tombée dans l'escalier. Ça va marquer une trace dans son dossier et ça peut même être très préjudiciable aux femmes. Alors, les femmes, quand elles sont en sécurité, quand elles sentent qu'elles peuvent sortir, etc., elles portent plainte. Enfin, quand c'est bien fait, il n'y a pas de problème. On ne fait pas à leur place.
Bérangère Couillard, vous allez répondre, bien sûr, mais on a eu un docteur, on l'a appelé pour lui poser la question, le docteur Gilles Lazimi, médecin généraliste. Bah, lui aussi, hein, il est plutôt très mesuré, voire plus encore.
Quand enfin un médecin pose la question des violences à une femme, qu'elle le révèle, on lui dit « Je vous remercie de votre confiance, tout ce qui se dit ici restera dans ce cabinet médical et vous pouvez porter plainte, mais c'est vous qui déciderez. » Si on fait les choses contre leur gré, on va les perdre. Et en plus, on n'est absolument pas certain de les protéger. Et malheureusement, j'ai déjà envoyé des femmes en situation de danger au commissariat qui n'ont pas été protégées. Donc dans un monde idéal où systématiquement toutes les plaintes seraient prises en compte, dans un monde idéal où elles seraient protégées au sortir du commissariat, éventuellement, ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Donc c'est contre-productif et ça peut être très dangereux pour ces femmes de faire les choses sans leur avis.
Bérangère Couillard, votre réaction là-dessus, entendez hein? Les associations, les médecins.
Mais nous aussi, nous sommes attentifs, évidemment.
Eh oui,
mais nous discutons avec l'ensemble des... Enfin, en tout cas, avec l'ordre des médecins. Et une solution va être normalement trouvée. Donc, c'est bien qu'il y a une partie, quand même, de la profession qui est enclin à le faire. Donc, il y a... En fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est à trouver un juste milieu. C'est-à-dire qu'évidemment, la femme doit toujours venir en confiance chez son médecin. D'ailleurs, l'ensemble des Français doivent venir en confiance chez leur médecin. Oui. Il n'est pas l'idée d'aller lever... Le secret médical. Par contre, dans le cas, ce qu'on appelle un péril imminent ou même un danger imminent, il doit pouvoir le faire. Lorsque vous avez, et madame le disait tout de suite, un passage aux urgences multiplié, que la même personne reçoit cette femme victime de violence et qu'il n'y ait aucun signalement, nous allons donc trouver une solution normalement avec un signalement possible, mais par contre que la victime soit prévenue.
Donc vous n'avez pas encore vraiment le détail de la procédure, c'est ce que vous nous dites,
mais c'est en tous les cas l'accord qui est en cours.
On se retrouve dans un instant avec d'autres mesures évidemment et vos réactions sur ces mesures, les auditeurs également qui nous appellent.
Vous pouvez également participer à ce grand forum grâce aux réseaux sociaux, le hashtag Europe 1, et n'hésitez pas à nous appeler 3921 pour réagir en direct sur Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, avec la suite de ce grand forum exceptionnel ce soir jusqu'à 19h. Nathalie, un forum consacré au plan du gouvernement pour lutter contre les violences conjugales. Vos invités, Margot Collet, militante Osez le féminisme, Bérangère Couillard, députée La République En Marche, et Alizée Bernard, victime de violences conjugales et auteur de Silence, on cogne, paru aux éditions Grasset.
Et les auditeurs qui nous appellent au 3921, bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Vous nous appelez du Pays Basque, vous êtes la maman, vous, d'une victime de violence conjugale.
Absolument, oui, c'est cela. Moi, je suis comme Margot Collet, donc je continue à militer contre ces violences conjugales. Mmh. Ma fille s'en est sortie grâce à nous, tant mieux, chance, mais pas complètement, quand même fragilisée psychologiquement. Bon, en dehors de ça, je suis déçue par les...
Par les annonces, par le plan du gouvernement.
Par les annonces, voilà. Par exemple, moi, j'ai retenu, parce que je sais que ma fille en souffre encore actuellement, l'autorité parentale partagée, Édouard Philippe annonce qu'il va la suspendre. Mais monsieur Édouard Philippe, on ne suspend pas une autorité parentale de quelqu'un qui a été violent avec sa femme devant ses enfants. On ne lui donne plus l'autorité parentale. Ce n'est pas possible. On ne peut pas donner l'autorité parentale à quelqu'un qui est malade.
Alors attendez, parce que vous savez, vous l'avez entendu, Bérangère Couillard, députée de La République En Marche de Gironde, est avec nous. Alors répondez brièvement, s'il vous plaît.
En fait, il ne s'agit pas de suspendre l'autorité parentale. Il s'agit de retirer l'autorité parentale dans le cas de violence conjugale. On parle de suspension de l'autorité parentale en cas de tentative d'homicide ou d'homicide. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on attend simplement le jugement. Donc évidemment, on est dans un état de droit, donc on suspend jusqu'au jugement. Et donc, si la personne a évidemment tué sa conjointe, dans ces cas-là, le retrait sera confirmé.
Vous avez entendu, Isabelle ?
Oui, moi, pour moi, c'est pas assez. Il faut pas attendre que la personne soit tuée.
Quand non,
ma fille a voulu aller porter plainte et qu'on lui a dit « vous n'avez pas de traces de coups, revenez quand vous aurez des traces de coups », mais ça veut dire quoi ? Il faut prendre des mesures avant, pendant, après. Oui. Mais pas retirer quand, parce que la personne a été tuée, on retire l'autorité parentale. Je suis franchement estomaquée.
Non, estomaquée. En fait, il s'agit bien de suspendre jusqu'au retrait en fait de l'autorité parentale en cas de violence conjugale.
Donc avant,
bien
avant
sûr,
qu'il y ait le drame.
En présentenciel, ce qu'on appelle.
Vous entendez Isabelle, hein, c'est pas oui. dans le cas du drame, c'est avant.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Aujourd'hui, on considère qu'un parent peut être toxique, la relation peut être toxique avec un enfant, et on sait que l'enfant est souvent mis en pression entre ses parents, donc c'est pour protéger autant la femme victime de violence que l'enfant.
Voilà. Eh bien oui, il est témoin, mais quand on vous dit que quand vous voulez aller porter plainte et que l'inspecteur qui vous reçoit vous dit « ben non, je ne prends pas votre plainte et je ne prends même pas votre main courante parce que vous n'avez pas de traces », donc comment vous faites après ? Comment vous faites ? Mais... on va convoquer votre mari, il va être entendu. Vous imaginez ma fille dans quel état elle était quand elle est sortie. Elle me dit, mais si, convoque mon mari, alors, moi je n'ose pas rentrer chez moi.
Dernier échange avec Bérangère Couillard, et on vous remercie Isabelle. Votre réponse, Bérangère Couillard ?
Il va y avoir du coup une prise en charge. J'entends bien qu'il faut qu'il y ait évidemment des marques et des coûts. Il va y avoir aussi une prise en charge des violences psychologiques, avec la notion d'emprise qui va rentrer notamment dans le code pénal et le code civil. Donc c'est aussi une avancée pour la reconnaissance encore plus des violences aussi psychologiques qui, elles, ne marquent pas le corps, mais qui marquent énormément l'esprit, bien sûr.
Voilà, merci beaucoup Isabelle de votre appel ce soir sur Europe 1. Pierre nous appelle, je crois, depuis New York. Marie-Pierre de Rouen, ça fait beaucoup plus près. Bonsoir Marie-Pierre. Vous êtes, mais c'est très bien aussi, vous êtes avocate et vous avez déjà eu à défendre une femme menacée, hein.
Ah ben régulier, oui, plusieurs fois. Et alors j'ai une réaction sur l'ensemble des mesures que je ne vais pas détailler, mais il y a quand même deux trois grandes lignes qui se dessinent. D'abord, il y a des mesures qui sont annoncées, qui sont des effets d'annonce et qui ne sont pas des vraies mesures. Par exemple, pas de pension alimentaire à la charge de quelqu'un dont le père a assassiné la mère. Effectivement, c'est pas écrit noir sur blanc comme ça dans le code civil, mais il y a une disposition similaire. Et ça fait bien longtemps que la jurisprudence ne condamne pas des enfants à payer des pensions alimentaires dans ce cadre-là. Donc ça, c'est pas du tout une avancée, c'est entériner et écrire noir sur blanc ce qui se passe déjà. Ensuite, on nous dit éducation à l'école, égalité hommes-femmes et violences faites aux femmes, ça existe dans la loi déjà depuis 2010.
Donc vous nous dites, que c'est du réchauffé, on a formalisé, on a mis, j'allais dire, dans l'ordre tout ce qui était déjà finalement connu et tout ce qui était déjà adapté aux violences faites aux femmes, ce que vous nous dites.
C'est pire, sur ces deux aspects-là, c'est pire que ça. C'est qu'on présente quelque chose comme étant une avancée, une véritable nouveauté, alors qu'en réalité, on assène quelque chose qui existe déjà. Ensuite, surtout, ce qui ne va pas du tout, c'est le manque de moyens alloués. Et si on n'alloue pas les moyens, on n'a pas une véritable efficacité. On a su le faire pour le plan cancer, on a su le faire pour les accidents de la route. Visiblement, on n'a pas l'intention de le faire pour les femmes.
Alors
ce que je voulais vous dire, c'est que quand il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de magistrat spécialisé, il n'y a pas de réduction des délais de procédure. Par exemple, j'ai déposé une demande d'ordonnance de protection au mois de juin et j'ai été convoquée au mois de septembre.
Merci beaucoup, Marie-Pierre. Je suis désolée, on va revenir sur ce que vous avez dit sur l'enveloppe allouée, la même qu'en 2019, avec vous dans un instant. Merci beaucoup de nous avoir appelés depuis Rouen.
La suite de ce grand forum avec Nathalie Lévy et ses invités, c'est dans un instant sur Europe 1. Vous pouvez vous aussi réagir au 3921 ou sur Twitter, hashtag Europe 1. La suite du grand forum exceptionnel ce soir sur Europe 1 jusqu'à 19h, consacré au plan du gouvernement pour lutter contre les violences conjugales. Nathalie Lévy avec vos invités.
Alors, on va conclure sur le budget parce que j'aimerais bien comprendre. 361 millions d'euros, hein, c'est évidemment ce qui a été annoncé. Même budget, Margot Collet, qu'en 2019, vous représentez Oser le féminisme ce soir. 361 millions d'euros, c'est une somme. Mais il aurait fallu combien, concrètement? Parce que là, il y a des mesures, il y a une enveloppe, mais vous dites, Oser le féminisme et d'autres associations, tout ça, finalement, c'est très en deçà de l'urgence. Alors, combien aurait-il fallu?
Non, juste pour réagir avec ce qu'on vient de dire, je pense que c'est important de dire que la plupart des mesures qui sont annoncées dans ce plan existent déjà. L'interdiction de la médiation pénale, ça existe déjà depuis 2014. La formation des enseignants sur les violences, ça existe déjà depuis 2010. Sur l'égalité, c'est obligatoire depuis 2013. L'interdiction du port d'armes, ça existe déjà dans le cadre de l'ordonnance de protection. Tout ça, on l'a. Ce qui manque, c'est l'application de ces textes. Et pour appliquer ces textes, il faut des moyens. Donc c'était là, ça a été maintes fois répété par les familles de victimes, par les associations, en disant... On l'a à l'arsenal juridique. Enfin, je veux dire, l'arsenal juridique, ça coûte rien et c'est facile de l'annoncer pour.
D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant alors? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'effectivement, vous êtes mobilisé fortement samedi, rebelote aujourd'hui, mais on est dans des conditions un peu différentes. Qu'est-ce que vous allez faire demain?
C'est pas nous. On va continuer de faire le travail qu'on fait avec le peu de moyens qu'on a. Qu'est-ce qu'on veut? C'est que les femmes, elles puissent aller au commissariat, qu'elles soient bien accueillies par des officiers de police ou de gendarmerie qui soient formés, qui les accueillent de manière irréprochable. Une femme qui fait face à la menace, si tu me quittes, je te tue, si tu portes plainte, je te tue, elle fait preuve d'un courage immense, sauf que derrière, il n'y a personne pour les aider et qu'on les met en danger. Les féminicides, on en compte 138, c'est 138 qui auraient pu être évités. Ça, on le sait. Et donc, c'est pour ça que la question des moyens, C'est pas juste pour faire joli, c'est pour que les associations, elles ne soient pas complètement sous l'eau, qu'elles puissent répondre à toutes les demandes, qu'aucun appel au 3919 ne soit laissé sans réponse.
Vous avez entendu, vous avez entendu hein, sur ce point Bérangère Couillard, le 3919, oui. Ça va être véritablement là, il y aura plus de téléphone qui sonne et qui
l'autre ouais, rien le 3919, qui répond. C'est un point d'entrée. Après, il faut que les victimes, elles puissent être accompagnées pendant des semaines, pendant des mois par des associations qui sont complètement sous l'eau. Et donc cette question des moyens et les chiffres que donne le gouvernement sont faux. On nous annonce 1 milliard d'euros pour l'égalité Allez. Femmes-hommes l'année prochaine. Tous les calculs sont contestés, leur sincérité est contestée. Donc on en est à un point où il faut avancer et arrêter de faire de la communication.
Alizé Bernard, vous parlez aussi de communication. Ce soir, vous nous avez livré évidemment votre témoignage. Évidemment, le fait que votre époux soit gendarme, ça a évidemment compliqué encore plus votre situation. Mais vous avez l'impression qu'aujourd'hui, en France, on a pris quand même les choses en main ?
On en a parlé.
On en a parlé.
On en a parlé. Pour moi, c'est uniquement ça. Et je pense que, en effet, je rejoins l'idée de Margot, c'est que aujourd'hui, il y a des lois qui existent, et malheureusement, on est trop.
Elles sont pas appliquées.
Elles sont pas appliquées, et on est finalement sur un jugement. C'est le magistrat qui va être en face de vous, qui va décider si oui ou non il va vous accorder. Et c'est pas des peines, ni des décisions qui sont basiques.
Combien il faudra de féminicides ? On est à 138 là. Combien il en faudra pour que le budget alloué soit non pas 361 millions, mais je crois qu'il était demandé 1 milliard hein.
Alors les 1 milliard déjà, ils étaient demandés parce qu'en fait il y a eu un regard sur le modèle espagnol qui du coup dit également 1 milliard.
Loin,
mais c'est 1 milliard sur 5 ans qui représente 200 millions par an. Donc on est au-delà des chiffres espagnols. Donc voilà, il y a bien 1 milliard 116 millions qui sont octroyés pour l'égalité femmes-hommes. L'égalité femmes-hommes, c'est évidemment...
Donc juste, quand on fait un Grenelle, c'est qu'il y a urgence, normalement. Quand on fait un Grenelle, c'est qu'il y a urgence, normalement.
Et il y a des mesures très fortes.
Ça, c'est une enveloppe d'urgence.
On donne l'impression qu'il y a... Enfin, ce que je trouve dommage, évidemment, je le regrette, c'est qu'on donne l'impression qu'il n'y a rien, alors que pas du tout. Lorsque vous avez notamment des unités d'accueil pour les enfants, pour leur libérer leur parole, donc ça, on prend en charge les enfants. Lorsque vous avez une mission d'intérêt général qui permet le financement de maisons des femmes, pour les généraliser sur l'ensemble des territoires, pour accueillir ces femmes dans de bonnes conditions. Lorsqu'on a également le traitement des auteurs avec 2 centres dans toutes les régions de France. Enfin, c'est quand même inédit.
Merci en tout cas d'être venu en parler. On n'a pas pu faire le point sur l'ensemble des mesures parce qu'il y en a 40, mais on entend le mécontentement. On entend que c'est trop peu. C'est ce que vous nous avez dit, vous, notamment Margot Collet. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, mesdames.
Merci.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Revenons dans un instant sur ce qui a peut-être été un drame évité en Seine-Saint-Denis, une tentative d'immolation par le feu d'une jeune fille. C'était tout à l'heure.
Restez avec nous, votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir jusqu'à 20h, Nathalie Lévy.
Oui, avec l'actualité évidemment et Sébastien Krebs, simplement une annonce le 19h10, l'invité politique d'Aurélie Herbemont, le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, sera dans ce studio.
Sébastien Krebs et Nathalie Lévy pour votre grand journal du soir. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
On a réussi à stabiliser l'emploi à Ascoval. Je voudrais juste qu'on regarde d'où on vient. La première fois que je suis venu, on pensait tous qu'on allait mettre la clé sous la porte.
Voilà un ministre de l'économie qui se réjouit. Le ciel s'éclaircit pour Ascoval. L'acierie longtemps menacée de fermeture remplit son carnet de commandes. Elle va fabriquer les rails de la SNCF. Nous sommes sur place ce soir.
Réaction mitigée hein, après la clôture du Grenelle des violences faites aux femmes. Vous venez de l'entendre d'ailleurs. Et puis c'est le collectif Nous Toutes qui appelle à retourner manifester là ce soir, rue de Varennes à côté de Matignon.
Dans ce journal également, nous vous racontons comment la guerre contre Daesh se joue aussi sur Internet. Opération géante menée par plusieurs pays européens pour s'attaquer aux organes de la propagande djihadiste. Et puis cette icône de l'Amérique qui devient un peu française. Les mots de Bernard Arnault, le patron d'LVMH, qui se paye le joaillier Tiffany pour 16 milliards de dollars.
La météo pour demain, Nathalie Lévy, en deux mots, du soleil au sud, de la pluie à l'ouest. Tous les détails à la fin de ce journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Mais d'abord, nous allons devant le lycée Clémenceau à Villemomble, en Seine-Saint-Denis, où un drame s'est joué en plein après-midi, tout à l'heure. Au cœur de cet établissement, Justin Morin, vous venez d'arriver sur place. Une élève de 18 ans a tenté de se suicider en s'immolant par le feu.
Oui, effectivement, et plusieurs voitures de police sont encore sur place, hein, garées dans la cour de l'établissement, là où même ce drame s'est déroulé. En fait, l'adolescente s'est aspergée d'un liquide avant d'y mettre le feu. Elle n'était pas en classe à ce moment-là, mais dans un coin peu fréquenté du lycée. Elle s'est ensuite jetée du premier étage. Trois personnes de l'établissement ont alors tenté d'éteindre le feu. Ce soir, elle est hospitalisée à l'hôpital de Clamart dans un état grave. D'après une source policière, elle souffre de graves blessures aux mains, au buste, d'un traumatisme crânien et de multiples fractures. Alors il faut savoir que cette jeune fille de 18 ans avait déjà tenté de mettre fin à ses jours. Le lycée était au courant. Elle était d'ailleurs suivie psychiatriquement. Ce soir, le recteur et le directeur de l'académie se sont déjà rendus sur place et une cellule d'accompagnement a été mise en place pour les élèves et le personnel de l'établissement, forcément très choqués par la violence de ce qu'ils passé.
Justin Morin en direct de Villemont-Blanc, Seine-Saint-Denis.
Nous en venons aux réactions plutôt réservées des associations féministes. Nous en parlions à l'instant dans ce forum après la clôture du Grenelle des violences faites aux femmes.
Une quarantaine de mesures annoncées ce matin par le Premier ministre, dont une bonne partie en réalité était déjà connue, comme le bracelet anti-rapprochement pour protéger les victimes, un millier de places d'hébergement, le numéro d'écoute 3919 qui va devenir accessible 24 heures sur 24. La notion d'emprise sera aussi rajoutée dans le code pénal. Mais certaines associations, comme le collectif Nous Toutes, estiment que c'est insuffisant, qu'il faut encore plus de moyens. Quelques dizaines de militantes manifestent ce soir. Écoutez Laura Jovigno.
Ce qu'a annoncé ce matin le Premier ministre était sidérant. C'est une honte et c'est une insulte pour toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles. C'est un empilement de demi-mesures en fait, où le gouvernement n'engage pas de moyens réels dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. De plus, il y a des mesures qui existent déjà. Par exemple, la levée du secret médical en situation de danger pour la victime, ça existe déjà. Nous, ce qu'on demande, c'est un réel plan d'urgence, c'est que le gouvernement mette les moyens sur la table pour pouvoir enfin oser dire que les droits des femmes sont la grande cause du quinquennat. On demande 1 milliard dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. C'est pour ça que nous nous mobilisons aujourd'hui, nous nous mobiliserons les jours suivants, on ne va rien lâcher.
Laura Jovigno du collectif Nous Toutes au micro de Jean-Jacques Herry. Pendant ce temps, c'est sur la question des retraites que ça défile à Matignon à 10 jours de la journée de mobilisation prévue le 5 décembre. Concertation marathon dans le bureau du Premier ministre, le MEDEF ce matin, la CFDT cet après-midi qui a déploré l'absence de réponse notamment sur le calendrier. Demain, ce sera au tour de la CGT et dimanche, Édouard Philippe convoque tous les ministres. Séminaire gouvernemental destiné à caler la feuille de route sur cette réforme des retraites. Et puis attention, si vous devez prendre le train sur le réseau Montparnasse ce soir, panne d'alimentation électrique sur ce réseau, la panne à Massy TGV, du coup des retards sur une dizaine de trains au départ de Montparnasse, notamment des TGV pour Poitiers, Le Mans, Tarbes ou encore Brest.
C'est une respiration, hein, même un immense soulagement pour les salariés d'Ascoval dans le Nord.
Oui, une nouvelle qui fait du bien dans cette aciérie après des mois d'incertitude, menace de fermeture, succession de plans de reprise défaillants. Eh bien ça y est, voilà l'éclaircie, le carnet de commandes se remplit enfin. Lionel Gougelot, vous êtes sur place à Saint-Saulve. L'usine va fournir de l'acier pour fabriquer les rails de la SNCF.
Oui, et ce contrat de fourniture de 140 000 tonnes par an pendant 4 ans va permettre de doubler la production d'acier sur le site. Alors bien sûr, l'usine est encore loin de tourner à son maximum, mais effectivement, cet engagement confirmé par le ministre de l'économie Bruno Le Maire cet après-midi permet de voir l'avenir avec un peu plus de confiance.
On a réussi à stabiliser l'emploi à Ascoval. Je voudrais juste qu'on regarde d'où on vient. La première fois que je suis venu, on pensait tous qu'on allait mettre la clé sous la porte. Je viens leur annoncer aujourd'hui qu'on va doubler leur plan de charge d'ici la fin de l'année 2020. C'est une excellente nouvelle. On verra ensuite pour l'emploi. Si déjà on peut sécuriser ceux qui travaillent, ce sera déjà une bonne chose.
Alors évidemment, cette bonne nouvelle, vous l'imaginez, est accueillie avec soulagement par les salariés, même si la partie est encore loin d'être gagnée.
C'est bien déjà d'avoir un contrat qui nous garantit 140 000 tonnes. C'est quelque chose d'énorme. Donc ça va permettre d'être plus serein et pouvoir avancer. Ce qu'on recherche au final, c'est 500 000 tonnes. Donc 140 000 tonnes sur les 500 000, ça fait un tiers d'activité. On est sur le bon chemin, on va dire.
Et il faut savoir que l'acier fabriqué ici est produit à partir de métaux recyclés à l'énergie électrique, un site qui émet 10 fois moins de CO2 qu'une usine équivalente. Un acier qui sera encore plus compétitif sur le marché si l'on applique des taxes à l'importation d'acier étranger et polluant.
Lionel Gougelot en ligne d'Ascoval à Saint-Saulve dans le Nord.
L'actualité de ce lundi, c'est également en plein cas au Haïti. Ce couple de Français tué par balle aujourd'hui même.
Oui, un couple originaire de l'Ardèche tué alors qu'il venait d'atterrir à Port-au-Prince, la capitale où il venait pour adopter un enfant. Haïti est depuis cet été retombé dans une grave crise sociale avec des manifestations émaillées de violence. Et puis la guerre contre le terrorisme, cette guerre contre Daesh se joue aussi sur Internet, guerre menée par les autorités européennes contre les outils de la propagande djihadiste. On apprend aujourd'hui qu'une opération de très grande envergure a été menée par Europol. Théo Manval, avec la participation d'agents de 11 pays européens qui ont effacé de la toile des dizaines de milliers de contenus liés à Daesh.
Oui, opération menée pendant 4 jours entre jeudi et dimanche dernier et qui a mobilisé au plus fort, sous autorité belge, une 60aine d'agents de 11 pays européens dont la France. Agents qui ont travaillé avec les plateformes en ligne comme Google, Telegram ou Facebook en leur signalant tous les contenus détectés de médias officiels de Daesh pour les faire supprimer. Vincent Semestre est le chef de l'unité d'Europol chargée d'Internet. Il parle ce soir de plus de 27 000 contenus identifiés et effacés.
C'est tout type de contenu de propagande qui aide à la radicalisation, qui peut être photo, vidéo, qui peut être textuel, du contenu qui est accessible au public. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que le public peut consommer en tant que propagande pour aider à réduire l'impact numérique des groupes terroristes.
L'opération a aussi permis l'arrestation d'un homme en Espagne, soupçonné d'être l'un des principaux diffuseurs de la propagande en ligne de Daesh. Le parquet fédéral belge ne cache pas sa satisfaction ce soir, avec toutefois un bémol. Écoutez le procureur fédéral, Eric van der Sijpt.
À l'heure actuelle, de ce que nous savons, Daesh n'est plus présent sur Internet. Maintenant, nous allons voir à quelle vitesse ils arrivent à revenir, s'ils y parviennent.
L'enjeu est effectivement d'empêcher maintenant la reconstitution de ses capacités de propagande, constitution qui n'avait pris que quelques jours après une opération similaire l'an passé.
Les précisions de Théo Manval pour Europe 1.
Et Bernard Arnault célèbre son nouveau joyau, il s'appelle Tiffany.
Une icône de l'Amérique qui devient un peu française. Voilà comment le patron du géant LVMH a salué le rachat du joaillier américain avec la promesse de le faire briller encore plus. Acquisition record, plus de 16 milliards de dollars. Emmanuel Duteil, LVMH a même dû faire monter les enchères pour emporter Tiffany. Pourquoi est-ce que c'était si intéressant d'aboutir à ce rachat ?
Eh bien, parce que Tiffany, c'est l'une des dernières grandes marques, une marque iconique indépendante dans ce secteur de la joaillerie haut de gamme. C'est aussi connu que Cartier, Van Cleef ou Chaumet. Tiffany est bien évidemment très présente aux États-Unis. C'est son marché, un marché capital pour le luxe et pour LVMH qui réalise déjà un quart de ses ventes. Même s'il faut casser sa tirelire pour s'offrir une bague de fiançailles, quand on regarde sur le site internet, faut compter quand même pour les tout premiers prix environ 30 000 euros. Eh bien, ces diamants délicatement livrés dans ces boîtes couleur bleu Tiffany font rêver encore une bonne partie des futurs mariés. La griffe américaine est aussi très présente en Asie, c'est l'autre très gros marché du luxe. C'est donc une proie de taille pour LVMH qui va se renforcer dans ce secteur des bijoux haut de gamme, seul segment du luxe où il n'était pas jusque-là numéro 1. Tiffany est une marque qui doit se réinventer un peu pour toujours être désirée par les jeunes générations. Un pari de taille pour LVMH qui réalise là sa plus grosse acquisition de son histoire.
Emmanuel Duteil, chef du service Eco, c'est la 76e marque du groupe LVMH. On ne dit pas marque normalement, on dit maison dans le luxe.
Oui. Et voilà comment LVMH lui passe la bague au doigt à Tiffany. Merci beaucoup Sébastien Krebs. L'info à 19h30 avec vous de retour. Anissa, une nouvelle perturbation demain.
Oui, alors cette perturbation, nouvelle perturbation arrive par l'ouest. De la Normandie à la région bordelaise, la journée commence sous la pluie demain avec des pluies accompagnées de vent du sud, un vent qui souffle fort jusqu'à 80 km/h. Dans l'après-midi, ces pluies, elles vont s'intensifier puis elles vont se déplacer vers l'est pour atteindre le nord, la Champagne-Ardennes, la région parisienne et le centre Val-de-Loire où là, demain, il va vous falloir un parapluie. Sur les côtes de la Manche et les côtes atlantiques, les orages vont se déclencher demain dans l'après-midi. À l'avant de cette perturbation de l'Alsace jusqu'à la Gironde, le temps reste sec avec quelques éclaircies dans l'après-midi et c'est dans le sud, enfin dans le sud, des Pyrénées-Atlantiques jusqu'à la Côte d'Azur en passant par l'Occitanie, le pourtour méditerranéen, la vallée du Rhône, que là vous aurez la journée la plus belle demain, une journée très ensoleillée dans l'après-midi, les températures sont douces, 2 à 12 degrés demain en début de journée, 10 à Paris, il fait très doux aussi l'après-midi, 12 à Lille, 15 à Caen, Limoges, 18 à Toulouse et 13 à Paris.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec dans un instant l'interview politique d'Aurélie Herbemont. Bonsoir Aurélie, ravie de vous accueillir.
Bonsoir.
Votre invité dans un instant.
Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement. Alors on va parler avec lui du mur du 5 décembre qui se rapproche alors qu'Edouard Philippe a reçu et reçoit encore demain les syndicats. La CFDT appelle à ne pas créer l'affrontement.
Et l'interview politique d'Aurélie Herbemont, c'est dans un instant sur Europe 1, dans votre grand journal du soir. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy. Et tout de suite, c'est l'heure de l'interview politique.
Avec Aurélie Herbemont et votre invité ce soir, Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Marc Fesneau.
Bonsoir.
Le Premier ministre reçoit les syndicats aujourd'hui et demain pour parler retraite. Alors, Laurent Berger de la CFDT a fait passer un message au gouvernement. Ne créez pas l'affrontement qui serait mortifère pour tout le monde. Mais est-ce que ce n'est pas justement une forme d'affrontement que recherche l'exécutif avec cette petite musique qu'on entend depuis quelques jours sur la mobilisation du 5 décembre qui serait juste contre la fin des régimes spéciaux ?
Bah écoutez, il faut regarder les actes. D'abord, le gouvernement ne cherche pas l'affrontement, il cherche, je crois que c'est prouvé depuis un certain nombre de semaines et de mois, la discussion avec les syndicats, avec un certain nombre de syndicats d'ailleurs qui sont prêts au dialogue et à la discussion. Et puis les syndicats qui, par postulat, ne veulent pas du tout de réforme. Mais en tout cas, avec les syndicats qui veulent discuter et débattre, la porte est grande ouverte, elle l'est depuis des semaines, et le Premier ministre reçoit un certain nombre d'organisations syndicales. Après, il y a une question sur les régimes spéciaux. Ce n'est pas faire offense aux salariés, parce qu'au fond, ce n'est pas leur responsabilité, que de dire qu'il y a manifestement dans le système actuel quelque chose de l'ordre de l'inégalité, et qu'il faut qu'on essaye de résoudre cette inégalité-là. Et c'est pas... Je répète, on ne cherche pas à vilipender tel ou tel secteur d'activité.
Vous ne cherchez pas en parlant de régimes spéciaux d'une autre époque. Il y a des régimes spéciaux
qui ont été construits à une époque, c'était en 1945, où la pénibilité ou la nature des conditions de travail n'était pas celle, reconnaissons-le, 75 ans plus tard, des 10 régimes. Et donc on est dans un système où on veut que l'universalité et l'égalité soient maîtres à la sortie du dispositif, et donc ça nécessite de réinterroger les régimes spéciaux et de les faire converger en un régime unique. Ce n'est pas une agression en tant que telle de dire qu'il y a des régimes spéciaux qui, dans les temps que nous vivons, ne paraissent plus correspondre à l'objectif que nous avons d'un système qui soit plus égalitaire. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Vous ne cherchez pas à monter le reste des Français contre les régimes spéciaux en disant si vous vous mobilisez le 5 décembre, c'est que vous défendez les cheminots ?
Mais on ne cherche pas à monter les Français les uns contre les autres, parce que je pense quand on gouverne, et c'est pas la volonté du gouvernement, ce n'est jamais une bonne méthode. Mais en même temps, on peut aussi poser les chiffres sur la table et regarder que des régimes spéciaux sont à l'œuvre, que par ailleurs, pour un certain nombre d'entre eux, ils sont déficitaires et ils sont financés par l'ensemble des Français. Et c'est pas illogique que les Français, pas que le gouvernement, qu'un certain nombre de Français s'interrogent en disant pourquoi mes impôts, mes taxes financent des régimes spéciaux alors que moi-même, je ne peux pas en bénéficier. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre une convergence des régimes. Je rappelle qu'en plus, on est sur un dispositif avec des mécanismes de transition qui sont en discussion, et c'est l'objet des discussions avec le Premier ministre et le gouvernement globalement, pour faire en sorte qu'on fasse converger les choses. Et il n'y a pas de volonté d'antagoniser les Français les uns contre les autres.
Vous savez en plus que cette réforme, elle inquiète au-delà des régimes spéciaux, de la RATP, de la SNCF, les avocats, les magistrats. Comment ça se fait que eux, vous n'arrivez pas à les rassurer non plus ?
Mais je pense qu'il faut qu'on essaye de faire de la pédagogie. Quand vous regardez, le régime agricole est un régime spécial. Au fond, en 1945, quand on a mis en place le régime général, les agriculteurs ont refusé d'intégrer le régime général parce qu'ils considéraient que la démographie était favorable, sauf qu'ils n'avaient pas forcément vu que la démographie était très défavorable à terme pour le régime spécial agricole. Résultat des courses, on se retrouve avec des agriculteurs qui ont des retraites 300, 400, 500 euros. S'ils avaient convergé dans un régime général, ils n'auraient sans doute pas ce régime spécial, mais au mauvais sens du terme, puisqu'ils ont des retraites qui sont très faibles par rapport à l'essentiel des Français. Pour les avocats et pour un certain nombre de professions, il y a aussi une question démographique qui se pose. Et donc c'est une responsabilité que de regarder non pas un régime en temps aujourd'hui, mais en temps dans 30, dans 20, 30 ou 40 ans, pour faire en sorte qu'il s'équilibre et qu'on ne se retrouve pas dans un régime qui soit lui aussi déficitaire, ou alors avec des pensions qui baissent.
Alors vous parlez de 20, 30, 40 ans, ça nous amène à la fameuse clause du grand-père, clause qui, je le rappelle, pourrait amener à ce que seulement les nouveaux entrants sur le marché du travail bénéficient, profitent ou accèdent au futur régime universel de retraite. Vous, votre position, c'est quoi sur la clause du grand-père ? Vous êtes pour ou vous êtes contre reporter la réforme dans 40 ans ?
Non, mais d'abord, il y a une progressivité des transitions. Ça s'est acté, le gouvernement l'a dit, on verra les durées qui peuvent être proposées, y compris aux organisations syndicales. Deuxième chose, la clause du grand-père, elle pose une question de à quel moment on rentre dans le système ? À quel moment, quel salarié rentre dans
le
système ?
Oui, et certains de vos collègues du gouvernement, hier Gérald Darmanin, il y a quelques jours Agnès Buzyn, disent « c'est pas crédible de faire la réforme dans 30 ans ».
Mais quel est le risque d'une clause du grand-père stricte ? C'est-à-dire qu'on ne rentre dans le dispositif que dans 40 ans. C'est que vous actez le fait que pendant 40 ans, un système que nous jugeons inégalitaire
perdure.
Et donc c'est pour ça que poser comme ça, ça n'empêche pas la progressivité et la transition.
Oui, le président parle de faire basculer progressivement.
De basculer du jour au lendemain d'un régime vers un autre. Vous voyez bien que c'est une réforme de système qui est à l'œuvre. Mais si vous étiez dans le statu quo pendant 40 ans, en fait, on aurait repoussé le problème à dans 40 ans. Or, il y a un problème d'inégalité. Il y a des carrières qui sont hachées, en particulier les carrières des femmes, mais pas seulement. Il y a des pensions de retraite qui sont versées, qui sont très faibles. Et l'objectif, c'est d'avoir des pensions de retraite qui monte pour ceux qui sont avec des pensions les plus faibles. C'est un mécanisme de solidarité. La solidarité, c'est au fond qu'on essaie de faire converger et de faire monter ceux qui ont des pensions de retraite qui sont très faibles. C'est bien ça qui est à l'œuvre. Et donc, si on attendait 40 ans, on serait dans un mécanisme où on acterait, d'une certaine façon, les inégalités qu'on a sous les yeux et que les Français perçoivent.
Donc, la clause du grand-père, plutôt pas. Mais peut-être que, comme on est encore en cours de négociation, il ne faut pas en parler maintenant. C'est peut-être une solution de sortie de crise.
Quand on est en phase de négociation, alors j'entends bien qu'on nous dit sortez, sortez, dites un certain nombre de choses. Il y a eu un rapport de Levoix qui posait les grands termes du débat. Il y a des discussions avec les organisations syndicales, en tout cas celles qui veulent bien se mettre autour de la table et pas avoir une posture, en gros, de refus systématique de la réforme. J'entends parfois le représentant de la CGT dire qu'il ne veut pas de réforme. S'il trouve que le système aujourd'hui est égalitaire, moi je veux bien qu'il le dise, mais moi je ne crois pas que le système soit égalitaire.
Alors justement, vous parlez de la CGT qui est contre la réforme, il y a la CFDT qui sur le papier est plutôt favorable au système de retraite universelle par points. Par contre, Laurent Berger
favorable parce
dit,
que historiquement la
c'est
CFDT,
eux qui le portent, c'est eux qui le
la
portent.
CFDT portait
sauf
qu'ils cette
disent
réforme.
Attention, nous on ne vous suit pas si pendant que vous faites sa réforme ou avant, vous mettez des mesures d'âge, allonger la durée de cotisation ou repousser l'âge de la retraite. Est-ce que pour avoir à vos côtés un syndicat, la CFDT, vous êtes prêt à renoncer au rééquilibrage du régime financièrement d'ici 2025 ?
Ça fait partie des points de débat, mais reconnaissons quand même qu'on ne peut pas entrer dans un nouveau système avec, si je peux dire, au compteur, 6, 8, 10 milliards de déficit. Parce que tout ça, c'est le déficit, c'est de la dette. Et donc, on aurait un système qui, par nature, serait déséquilibré au démarrage. Donc, il faut aussi qu'on pose cette question-là. Après, il y a une question de séquençage, si j'entends bien ce que dit M. Berger, en disant, pas tout à la fois. Mais en tout cas, cet objectif d'équilibre des comptes, on ne peut pas y renoncer en tant que tel. Parce que comment on peut accéder ? Alors, j'ai entendu M. Berger dire, c'est l'épaisseur du trait. Il me semble que c'est un trait suffisamment épais pour qu'on se pose la question de savoir comment on équilibre ce système.
Équilibre et système, juste une toute dernière question très rapidement car ça va très vite. Le 5 décembre, les usagers auront des problèmes pour se déplacer. Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs LR, dit « il faut faire une loi sur le service minimum ». D'ici le 5 décembre, vous avez un créneau, monsieur le ministre des Relations avec le Parlement.
Je connais trop le sérieux et l'expérience de Bruno Retailleau pour ne pas regarder ça avec un peu de distance. Parce que légiférer... D'abord, dans ce délai-là, c'est impossible.
C'est impossible.
Ça n'existe pas en 15 jours. Si vous pouvez me faire faire une navette entre...
Vous voulez dire que Bruno Retailleau faisait juste de la politique ?
Mais il me semble qu'on pourrait s'éviter de faire de la législation sous le coup de l'actualité. Nous, on va essayer de mettre en place un certain nombre de mécanismes pour éviter le maximum de désagréments français, même si j'imagine qu'il y en aura un certain nombre. Mais en tout cas, on ne peut pas... À 15 jours d'une grève, dire je vais déposer une PPL, je pense que, et Bruno Retailleau le sait certainement, c'est que ce n'est pas une
ça
façon
pas
de légiférer.
Possible. Merci beaucoup Marc Fesneau d'avoir
Merci
été mon invité.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Restez avec nous à 19h30. C'est sur Europe 1 qu'on vous dévoile les noms des 50 Français les plus influents dans le monde, mais surtout, qui et pourquoi. C'est signé Vanity Fair. Je peux vous dire qu'il y a des surprises. On attend vos réactions.
Et vous pouvez bien sûr témoigner au 3921, poser vos questions, réagir. Également sur Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy. C'est jusqu'à 20h.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Et Europe 1, à chaque soir, à cette heure-ci, a un temps d'avance. Bonsoir Théophile Cossard.
Bonsoir Nathalie.
Alors demain, coup d'envoi de la nouvelle campagne d'hiver des Restos du Cœur, hein, partout en France.
Oui Nathalie, souvenez-vous, hein, c'était en 1985, ça se passait sur Europe 1. Coluche avait soudain une idée.
J'ai une petite idée comme ça, quand il y a des excédents de bouffe à droite à gauche, à ce moment-là, nous, on pourrait peut-être les récupérer. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Voilà, près de 35 ans plus tard, Coluche n'est plus là, mais la grande cantine gratos, oui, oui rappelons les chiffres, hein, 900 000 personnes accueillies l'année dernière dans les 2000 centres partout en France. Imaginez, plus de 133 millions de repas distribués.
Et demain, donc, les restos rouvrent pour cette période hivernale.
Absolument, ils étaient en pause en automne pour refaire le plein de dorés, mettre à jour les inscriptions. Alors, le président des restos me le confiait tout à l'heure. Ce soir, tous les centres sont évidemment en pleine ébullition. Il faut réceptionner les stocks et s'organiser pour que tout soit prêt demain.
Et le lancement de cette campagne, c'est aussi l'occasion pour les restos de faire passer des messages, notamment au pouvoir public.
Oui, précisément aux dirigeants de l'Union européenne. Ils doivent définir début 2020 le futur budget du Fonds européen d'aide aux démunis, une aide vitale pour les Restos du Cœur qui permet aujourd'hui de financer un repas sur quatre, ce qui est énorme. Eh bien, l'association craint que ce budget soit réduit. Enfin, cette année, l'asso veut poursuivre le développement de ses missions sociales. Vous savez, les Restos du Cœur, ce ne sont pas que des repas distribués. Il y a l'accès aux loisirs, à la culture et aux... vacances. L'an dernier, 5000 personnes, des familles, des seniors, sont parties en vacances grâce au resto. Voilà Nathalie, les 2000 centres ouvrent donc demain pour 4 mois. Une campagne indispensable quand on sait que le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté en France a augmenté cette année. Ils sont désormais plus de 9 millions.
Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Dépassé de chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à toi.
Cette nouvelle campagne des Restos du Cœur qui s'élance donc demain partout en France. Merci à vous Théophile Cossard. On s'éloigne un petit peu demain dans le monde. C'est avec vous Didier François. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
On retourne ce soir à Hong Kong hein, parce que l'actualité s'impose. Le mouvement pro-démocratie a très largement remporté les élections locales. Une victoire fêtée d'ailleurs dignement hein, aujourd'hui. Demain risque de confrontation encore plus grand du coup avec Pékin. Hein.
Oui alors effectivement pour le moment c'est vraiment la joie qui s'exprime dans les rues de Hong Kong.
Hong Kong, vous l'entendez, cette foule qui fête sa victoire, un raz-de-marée en faveur du mouvement pro-démocratie qui rafle la mise dans 17 des 18 districts en jeu et gagne 117 élus, ce qui est exceptionnel.
C'est écrasant.
86% des suffrages avec une participation record, 71%, pour vous donner une idée de comparaison. Lors du dernier scrutin en 2015, seulement 46% des électeurs avaient daigné aller aux urnes, parce que dans les faits, ce conseil local n'a pratiquement aucun pouvoir. Mais cette fois-ci, peu importe, les citoyens de Hong Kong ont utilisé cette unique consultation qui se déroule au suffrage universel comme un véritable référendum contre le gouvernement pro-Pékin nommé par les autorités communistes chinoises et en faveur de la jeunesse protestataire, malgré la radicalisation d'une partie des manifestants au cours de ces dernières semaines.
Alors c'est également un terrible camouflé pour les dirigeants communistes chinois. Ils refusent toute discussion avec le mouvement de protestation. Pour l'instant, ils laissent planer la menace d'une intervention armée.
Oui, alors gifle retentissante qui laisse le Parti communiste chinois devant une seule alternative, négocier ou intervenir. Mais quel que soit son choix, ça devrait prendre un peu de temps parce que le résultat des élections est tel qu'une intervention militaire n'est a priori plus possible à court terme. L'ouverture immédiate de pourparlers paraît également difficile parce que ça serait considéré par les Chinois, y compris ceux du continent, comme une preuve de faiblesse du gouvernement de Pékin. Donc on va voir pourrir la situation pendant quelques temps, le temps que Pékin digère sa défaite.
On regarde ça de près, cette situation avec vous. Merci beaucoup Didier François. Restez avec nous parce qu'on va enchaîner dans un petit instant avec nos invités. Mais une information, notez-le sur vos agendas demain matin. L'invité exceptionnel de la matinale de Mathieu Béliard, Bernard Arnault, le PDG d'LVMH, invité exceptionnel. Il répondra aux questions à 8h15 de Sonia Mabrouk. Il sera à son micro parce que vous le savez, depuis cette nuit, LVMH s'est offert le joaillier américain Tiffany pour plus de 16 milliards d'euros. Bernard Arnault, invité spécial de cette matinale.
Votre grand journal du sens poursuit. Restez avec nous. Vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h. 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Le rappel des titres avec vous Sébastien Krebs.
Traiter les violences faites aux femmes à la racine et dès le plus jeune âge, objectif affiché par le gouvernement aujourd'hui à la clôture du Grenelle. Une quarantaine de mesures, renforcement du numéro d'écoute 3919 des centres de prise en charge pour les hommes violents et la notion d'emprise qui sera ajoutée au code pénal. De gros retards au départ et à l'arrivée en gare Montparnasse ce soir en raison d'un TGV en panne au niveau de la gare de Massy TGV, trafic très perturbé en direction notamment du Mans, de Poitiers, de Tarbes ou encore de Brest. Une élève de 18 ans a fait une tentative de suicide cet après-midi au cœur de son lycée en Seine-Saint-Denis. Elle s'est aspergée d'un produit et s'est immolée par le feu avant de se jeter du premier étage. Elle est hospitalisée dans un état grave, elle souffrait de troubles psychologiques. Et puis la réponse du PSG à Zinedine Zidane qui s'est dit amoureux d'Mbappé, vous l'avez entendu tout à l'heure à 18h, la réponse est venue de l'entraîneur parisien Thomas Tuchel. Je ne sais pas à quel point Zinedine est amoureux de notre joueur, dit-il, mais je pense qu'on l'aime aussi et le plus important c'est qu'il est notre joueur. Voilà qui est dit ambiance avant le choc Real PSG demain soir. Ouais.
Merci beaucoup Sébastien, à demain à 18h. Anissa, le retour du beau temps dans le sud.
Enfin, effectivement, ouais. Après cet épisode méditerranéen qui a été très très violent et qui a créé de nombreux dégâts dans le sud-est notamment, demain, le soleil revient toute la journée avec de très belles éclaircies et quasiment aucun nuage dans le sud-est. Donc vous allez pouvoir profiter de cette très belle journée. En revanche, c'est au nord-ouest que ça se complique. Une nouvelle perturbation arrive par le nord-ouest demain. Beaucoup de pluie, des pluies soutenues de la Normandie jusqu'au pays de la Loire. L'après-midi, on attend même des orages sur les côtes atlantiques et les côtes de la Manche. Très prudent. Et puis, au fil de l'après-midi, au fil des heures, ces pluies, elles vont se décaler vers l'est. On attend quelques gouttes sur le nord, la Champagne, Ardennes, la région parisienne, le Nivernais, les pays de la Loire. Là, c'est parapluie. Par précaution, demain, dans ces régions, les températures, elles sont douces, 2 à 11 degrés le matin.
Europe 1. À la suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Et ce soir, vous avez décidé avec votre invité de tourner les pages du nouveau Vanity Fair.
Bah oui, en fait, on a de la chance, on a un superbe classement. Le classement des 50 Français les plus influents à l'étranger. Il est effectivement signé de ce magazine qu'on aime bien, des personnalités du monde économique, du sport, du cinéma. Bonsoir Joseph Gost.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes directeur des rédactions de Vanity Fair. Et on va le voir ensemble, on va feuilleter ensemble. Il y a des surprises, il y a des rencontres. Il y a des découvertes dans ce classement. D'abord, dites-nous un peu, parce que tout le monde ne connaît pas vos secrets de fabrication. Quelle est votre méthode pour définir ces 50 Français les plus influents?
On s'y prend très tôt et c'est une méthode très
presque démocratique, c'est-à-dire on se rassemble,
ouais.
on déjeune, on rigole, on se dispute, etc. Donc on met des listes en commun et on essaie de voir les gens qui ont vraiment été influents dans l'année qui s'est écoulée, des gens qui ont fait des choses remarquables ou des gens qu'on a remarqués ou des gens voilà sur lesquels on peut aussi parier. Donc ça aussi c'est important.
Donc prometteur
exactement. Et cette année on a aussi une nouveauté qui est qu'on a un peu casser le classement habituel qui était de 1 à 50 et là on a mis des catégories.
C'est ça, il y a des catégories, il y a la catégorie cinéma, la catégorie engagement, la catégorie food, donc évidemment les chefs mais pas seulement, on va y venir, la culture et la diplomatie politique, donc le luxe et je crois que c'est à peu près tout, non, le sport et la recherche. C'est ça, voilà. On a à chaque fois des figures qu'on connaît tous, j'allais dire,
bien sûr.
Et puis il y a des rencontres, il y a des surprises. Alors quand même, sur le cinéma, Leïla Bekti avec Taha Rahim, avec cette superbe une. Hein. On adore ce duo. Mais c'est vrai que...
C'est la première fois, c'est vrai.
Ils sont plutôt très discrets, ils le revendiquent d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est quand même une surprise parce que finalement, ils ne tournent pas ensemble ou peu. Ils font du cinéma à leur manière, mais ce n'est pas forcément toujours des gros succès du box-office.
Non, mais ce sont deux acteurs qui ont une carrière, depuis 10 ans en tout cas, à la fois exigeante et en même temps aussi très populaire. Donc, moi, j'aime bien ça, j'aime bien les gens qui arrivent à allier ces deux choses-là. Ils ne tournent pas ensemble, ils vivent ensemble depuis 10 ans, mais là, surtout, ils sont en train de tourner dans une série qui va être à l'affiche, qui va être l'année prochaine sur Netflix, The Eddie, et qui est tournée par... Il y a quelque chose de très fort là, et ils sont installés, mais c'est aussi un pari. Ouais. Et on dit que ce couple-là va aussi être très fort à l'étranger.
Ouais, ils sont installés, ils sont pleinement dans leur époque. C'est aussi ça.
Ils sont totalement dans l'époque, voilà. C'est-à-dire que l'époque aujourd'hui, c'est eux, c'est Leïla et Tahar, ils font l'époque. Lui, c'est marrant parce que lui, en ce moment, il tourne aussi en Thaïlande. Voilà, ils sont aussi un peu partout. Ouais. Et ils symbolisent aussi quelque chose d'un peu neuf à mon sens dans le cinéma, c'est-à-dire un couple qui reste discret, qui ne joue pas du tout sur son image, et ça a été de longs mois de discussion avec eux pour arriver à cette couve. Donc c'est aussi, ça raconte aussi quelque chose d'aujourd'hui.
De notre époque. Alors on a de la chance, on a la quatrième place de ce classement en ligne avec nous dans la catégorie cinéma. C'est Monsieur Thierry Frémaux. Bonsoir, merci de nous répondre ce soir en direct sur Europe 1. Vous êtes évidemment délégué général du Festival de Cannes, on vous connaît précisément. Vous êtes d'abord surpris de vous retrouver quatrième dans ce classement ?
Un petit peu, parce que Vanity Fair m'avait déjà fait l'amitié et l'honneur de me classer l'an dernier. Donc j'ai été un peu surpris de me retrouver à nouveau dans le classement. Et puis évidemment, très fier, pas tant pour moi, ma personne, mais pour ma fonction, pour le Festival de Cannes. Et il est vrai, comme c'est dit d'ailleurs dans le texte qui accompagne et qui explique un peu pourquoi, qu'on a fait un très beau Cannes et que le Cannes du mois de mai irrigue après ses influences, en effet, partout dans le monde, dans tous les festivals et bientôt aux Oscars, au Golden Globe et ailleurs.
Alors, vous allez rester avec nous, Thierry Frémaux. On va se parler dans un instant à la fois des choix de Vanity Fair et puis évidemment de cette influence de la France dans le cinéma. Restez avec nous.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec votre invité. Vous recevez Joseph Ghosn, il est directeur des rédactions de Vanity Fair et nous découvrons ce classement des personnes influentes dans différentes catégories avec vous.
Et oui, décembre, janvier, ce classement des 50 Français, la diplomatie, le cinéma, nouvelle catégorie, food, évidemment. On va y venir dans un petit instant avec vous, Joseph Ghosn, mais parce que comme on a la quatrième place de ce classement avec nous en ligne, Thierry Frémaux, évidemment dans la catégorie cinéma. Juste une petite question. Vanity Fair, Thierry Frémaux, souligne que lors de cette édition 2019, vous avez fait la part belle aux réalisatrices. Un vent de modernité, surtout quand on sait que le cinéma mondial souffre de ces affaires d'agression sexuelle. C'est ça aussi maintenir l'influence, c'est ça être dans l'air du temps?
Oui, c'est être dans l'air du temps, le précéder et parfois le suivre. C'est-à-dire que Cannes ne vit pas hors du monde. Et là, par exemple, Mati Diop, la réalisatrice d'Atlantique, qui est classée en numéro 2, en effet, Et c'est dit, et ça a été dit beaucoup, en particulier par la presse américaine, la première femme de couleur à être sélectionnée en condition, la première réalisatrice. Mais au-delà de ça, c'est son talent et Vanity Fair, comme ça a été dit par Joseph Gaughan, parie sur l'avenir. Ouais. C'est-à-dire que on risque de la retrouver. Nous, quand on voit Atlantique, si j'ose dire, ça tombe sous le sens, qu'il faut mettre le film assez haut, en tout cas le retenir, et puis après on se dit on va le mettre en compétition, et ensuite ça ne nous appartient plus, c'est la presse qui a fait succès au film, et puis le jury bien sûr.
Merci beaucoup Thierry Frémaux de nous avoir accordé quelques instants par téléphone, donc délégué général du Festival de Cannes, merci à vous. C'est intéressant ce que dit Thierry Frémaux, il parle évidemment de cette réaliste Mati Diop, il y a aussi... à la cinquième place de votre classement, toujours dans la catégorie cinéma, on va plus loin dans un instant, Catherine Deneuve. Alors elle a 76 ans, mais ça reste
à la fois...
C'est le bon mix d'ailleurs chez vous. Hein.
Exactement, c'est ça, c'est le bon mix. Catherine Deneuve reste une grande icône, mais qui continue à tourner et qui est extrêmement, extrêmement active. Là, elle est dans un film qui sort le 25 décembre d'un grand réalisateur japonais. Voilà, c'est ça aussi.
Ouais. Juste dans la catégorie culture, oui. Alors moi j'avoue, je ne la connais pas très bien, mais les jeunes s'en sont emparés depuis un moment. Aya Nakamura, cette chanteuse française de 23
Nakamura,
ans, qui cartonne. Bah ouais, mais je
suis
là.
C'est la grande chanteuse française.
Oui, mais des jeunes, non?
Pas forcément, pas uniquement des jeunes.
Elle est partout.
Je pense qu'elle est partout. Elle dépasse le clivage jeune-vieux, etc.
Ah bah comme quoi.
Et puis surtout dans ce qu'elle raconte, c'est-à-dire
il y a
un message. Et surtout, enfin au-delà du message, il y a une force. C'est-à-dire que il y a 30 ans, France Gall chantait des branches. Elle dit, je suis pas ta catin. Et ça c'est très très fort. Évidemment, on parlait de l'ère du temps et des choses qui arrivent. Et là, Aya Nakamura, elle est en plein dans ça. Elle symbolise le pouvoir des femmes et le pouvoir repris. Et ça c'est hyper important.
Alors le pouvoir aussi des réseaux sociaux. On y vient dans une petite seconde, parce qu'on a Wendy Renard aussi avec nous en ligne. Bonsoir Wendy Renard.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, parce que vous êtes une footballeuse, vous avez 29 ans et vous êtes en tête, première place du podium dans ce classement des 50 Français les plus influents dans la catégorie sport. D'abord, vous avez l'impression d'être un symbole aujourd'hui, une femme venue d'un milieu populaire qui devient la sportive française la plus influente dans le monde, hein, c'est pas rien.
Oui, c'est vrai que j'ai pris cette nouvelle avec beaucoup de bonheur, de fierté. Après, voilà, quand on regarde un peu le classement et la diversité des gens qui le composent, on ne peut qu'être fier. Maintenant, c'est pas une fin en soi. Et comme je l'ai dit, je sais d'où je sors. Donc, je le prends avec beaucoup de bonheur et de fierté par rapport au parcours que j'ai pu effectuer. Mais c'est pas fini.
C'est quand même double succès, j'allais dire, parce que on parlait très peu du football féminin il y a encore pas si longtemps. Ouais. Et puis vous êtes quand même devant Karim Benzema, ça c'est notable. Il est troisième dans ce classement.
C'est un joueur que j'adore beaucoup, comme Rudy Gobert. Donc c'est un joueur que j'adore. Il est aussi lyonnais, donc. Ouais, et puis au-delà de ça, il est très 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 fort. Donc de savoir que je suis devant lui, c'est une récompense et aussi une fierté, comme je l'ai dit. Ça démontre que le travail effectué tout au long de la saison, que ce soit en club ou en sélection, ça passe pas inaperçu. Donc je suis contente.
Ouais. Capitaine de l'équipe de France, capitaine des Bleus, merci beaucoup Wendy Renard.
D'avoir... capitaine de l'Olympique Lyonnais,
De l'Olympique Lyonnais, merci beaucoup, pardon.
Voilà,
merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir par téléphone. Vous avez, Joseph Gaughan, ajouté une catégorie cette saison, cette année, la catégorie food, parce que c'est plus qu'un état d'esprit, c'est une façon de vivre aussi.
C'est la dernière grande expérience aujourd'hui. Qui rassemble un peu tout le monde. Tout le monde, là, il y a beaucoup de nouveaux restaurateurs, de nouveaux restaurants, de nouveaux endroits, des expériences dingues, que ce soit dans des choses végétariennes, dans des mélanges, de la fusion, etc. Et il y a des gens très, 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 très inventifs. Et c'est ça aussi qu'on a tenu à récompenser quelqu'un comme, par exemple, la cinquième du classement.
Céline Femme.
Qui est un chef itinérant, qui travaille beaucoup de matières, beaucoup de choses très, 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 assez incroyables, qui crée, qui est une véritable artiste.
Bon, alors évidemment, je ne pouvais pas ne pas y aller. En diplomatie, il est premier sur cette marque. Il est seul d'ailleurs.
Il est
Pourquoi seul? Et c'est Emmanuel Macron, le président français. Mais en fait, seul, pourquoi ?
En fait dans cette catégorie diplomatie, mais qui est aussi une catégorie la catégorie du pouvoir, c'est vrai qu'il a accompli des choses assez incroyables de ce point de vue-là. Quand vous lisez ce qu'on a écrit, tout ce qu'on a rassemblé, vous voyez qu'il a été le seul, notamment en Europe, à défendre une idée très forte de l'Europe. Il a été aussi capable d'aller chercher Poutine, de l'amadouer, pareil
Donald
avec Trump.
Donald Trump sur le climat,
Donald
par
Trump
exemple.
Sur le climat, etc. Biarritz, etc. Il a fait des choses assez notables, assez remarquables, suffisamment pour qu'on le mette en avant.
Mais à tel point qu'il est seul et unique. Et
à,
ça
tel point, à tel point qu'il est seul et unique, mais il est quasiment seul et unique dans cette catégorie-là en Europe aujourd'hui.
Merci beaucoup en tout cas, Joseph Gaudin, d'être venu nous voir ce soir avec ce numéro décembre-janvier, ce Vanity Fair, ce classement des 50 Français les plus influents. On découvre aussi donc vos secrets de fabrication et on apprécie et on est sûr que l'année prochaine on découvrira d'autres catégories.
Absolument.
Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. On poursuit dans un instant avec un documentaire sur Nicolas Hulot, figurez-vous. Nicolas Hulot, sa démission du gouvernement, on s'en souvient, ce sera sur France 5, à ne pas rater. Le producteur est avec nous dans un instant.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, et tous les jours juste avant 20h, on parle culture, la culture au sens large. Dans un instant, on va parler d'un documentaire consacré à Nicolas Hulot, mais avant cela, c'est l'heure de la playlist du 18-20. Qu'est-ce qu'on s'écoute ce soir, Nathalie ?
Alors, on va s'écouter le groupe U2. En fait, ce titre inédit qui vient tout juste d'être dévoilé, qui s'appelle Aïmsa. This is a meditation on your radio station. You like it, you can see. Oui, je connais Bono et je connais U2.
Bien,
voilà. Non, mais arrêtons. Magnifique cette voix, toujours, et cette tournée mondiale autour de leur album Joshua Tree. U2 a dévoilé vendredi dernier ce titre inédit en collaboration avec le musicien indien Rahman, compositeur de la musique du film Slumdog Millionnaire. Ça aussi, je connais.
Oh. Prochain titre dans la playlist 18-20, ça sera demain. Est-ce que Nathalie connaîtra ou pas ? Réponse demain.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on découvre des morceaux chaque jour et des artistes sur Europe 1 et on les fait découvrir, j'espère, aussi avec plaisir.
La culture au sens large poursuit Nathalie Lévy. Ce soir, zoom sur ce documentaire France 5 à ne pas manquer. Ça sera dimanche soir à 20h50. C'était écrit, un documentaire qui retrace le parcours de Nicolas Hulot au gouvernement. Et si son départ fracassant était écrit, c'est la question qu'on se pose ce soir avec vous en studio, Alexandre Amiel, le producteur du documentaire.
Bonsoir Alexandre Amiel.
Bonsoir Nathalie.
Bienvenue dans ce studio, je suis ravie. Alors évidemment, quand on regarde le documentaire, 1h30 hein, à peu près, on se dit, quel sensible ce Nicolas Hulot, quelle personnalité finalement affective, il y a vraiment ça chez lui, hein. C'est ce qui ressort en premier, non ?
Ah, c'est sûr que ce n'est pas un politique au sang-froid. Si on le compare au Premier ministre, à Édouard Philippe, ce n'est vraiment pas du tout les mêmes mécaniques.
Et alors vous, au sortir de tout ça, le montage et tout le temps qui s'est déroulé après, qu'est-ce que vous dites ? Vous avez travaillé évidemment avec le journaliste Karim Rissouli, qu'on connaît bien pour ce documentaire. Vous dites, il avait les épaules pour être ministre et encaisser la violence de la vie politique ?
Alors là, oui et non. Ah. C'est-à-dire que dans le documentaire de Karim Rissouli et Daniel Spizzini, qui passe donc dimanche à 20h50 sur France 5, ce qu'il apparaît, c'est que son départ, il était inévitable. Le spectre de sa démission existait dès le premier jour où il est arrivé au gouvernement. Il n'était pas arrivé que déjà on lui imposait 2 secrétaires d'État et que déjà il mettait sa démission dans la balance. Donc, pour des raisons à la fois personnelles et politiques, c'était déjà écrit qu'il allait partir.
Il y est allé pourquoi ? Un élément de réponse de la part de Daniel Cohn-Bendit et vous complétez après.
Il a été fasciné par Emmanuel Macron qui, et c'est pour ça qu'il y a été, parce qu'il s'est dit, ben voilà, j'ai une soixantaine d'années, et où j'y vais maintenant, où je ne fais pas de politique. C'est maintenant ou jamais, et dit, ben je vais essayer.
Daniel Cohn-Bendit, lui qui a failli aussi, en tout cas qui a été approché, courtisé 1000 fois par différents gouvernements, qui n'y est jamais allé, et il parle de cette fascination de Nicolas Hulot pour Emmanuel Macron.
Je pense qu'il a dû être séduit par Emmanuel Macron, qui est un grand séducteur, mais au-delà de ça, il avait déjà dit non à tous les présidents. Chirac lui avait proposé d'être ministre, Sarkozy aussi, Hollande aussi, et effectivement, comme le dit Daniel Cohn-Bendit dans cet extrait, c'était cette fois ou jamais. Il avait renoncé à être candidat à la présidentielle. Une fois, on l'en a empêché, et puis une autre fois, il y a renoncé de lui-même, donc il s'est dit c'est la fois ou jamais. Ouais. Après, au fond de lui, c'est pas un politique, c'est pas quelqu'un qui arrive à vivre avec le quotidien, avec tous les efforts, les astreintes inhérentes à la vie d'un homme politique.
Même, là, Alexandre Amiel, on se dit c'est pas de sa faute, mais fondamentalement, est-ce qu'il n'y avait pas aussi un problème de méthode Hulot, peut-être aussi une forme d'arrogance ou de surpuissance en se disant bah, moi je vais y arriver, moi je vais faire la différence.
Je crois pas, je crois au contraire qu'il y a été quasiment contraint. Et donc en se disant, je ne peux pas ne pas y aller.
Oui, mais après, une fois dans la place, est-ce qu'il n'a pas cru que lui, il ferait la différence?
Il a vu très vite que l'appareil politique, que l'appareil d'État et que les arbitrages au sein du gouvernement ne lui étaient pas favorables. Donc assez vite, il a vu la puissance des lobbies et il a vu aussi qu'au sein du gouvernement, ne serait-ce que culturellement, le ministère qu'on appelle le ministère de l'impossible, qui est le ministère de l'écologie, laisse que peu de place, même à un ministre puissant, puisqu'il était quand même ministre d'État et un des ministres les plus importants du gouvernement.
Évidemment, numéro 3 du gouvernement, il y a évidemment sa position de grand défenseur de l'écologie, mais avant ça, il a un passé télévisuel.
C'est là où on ne peut pas demander à un militant associatif, homme de télévision, quelque chose qu'au fond, il ne savait pas faire, il ne pouvait pas faire.
Sébastien Lecornu, ministre des collectivités territoriales, qui nous dit en creux, on ne peut pas faire 6 millions de téléspectateurs dans Ushuaïa, ou certainement moi, je m'emballe un peu, et puis tout à coup, être là en train de défendre un texte.
Sébastien Lecornu, à l'époque, il était son secrétaire d'État, et finalement, il était un peu la présence d'Édouard Philippe au sein de ce gouvernement. Il faut savoir qu'Édouard Philippe a été quand même directeur des affaires publiques d'Areva.
Donc, il a entravé Nicolas Hulot, c'est ce que vous nous dites ?
Non, je pense que c'est un peu plus subtil que ça. C'est pas,
il ne parlait pas le même langage, en tout cas.
Il ne parlait pas le même langage, il ne voyait pas le monde de la même façon. Et forcément, au bout d'un moment, les arbitrages... alors, il a eu quelques victoires, Nicolas Hulot. Il en a eu une très forte avec Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Mais il était inscrit que si l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes se faisait, il ne serait pas resté. Donc en fait, en permanence, c'était toujours avec la démission dans la balance, et il a dû avaler un certain nombre de couleuvres pendant ces 15 mois.
Alexandre Amiel, évidemment, c'était écrit, ce sera diffusé sur France 5 à 20h50 le 1er décembre, dimanche 1er décembre précisément. Une dernière question. Qu'est-ce qui reste finalement du passage de Nicolas Hulot au gouvernement quand vous regardez dans le rétro?
Ce qui est sûr, c'est qu'au moment où il a démissionné, ça a créé un électrochoc. Donc, il y a des gens ont manifesté dans la rue pour l'écologie dans les mois qui ont suivi. Il y a aux européennes, les écolos ont fait un score totalement inattendu. Donc, finalement, en partant, c'est peut-être ce qu'il a
fait plus fort comme acte politique
au sein de ce gouvernement, je
pense. À ne pas manquer sur France 5 le dimanche 1er décembre à 20h50 le départ de Nicolas Hulot, Alexandre Amiel avec le journaliste Karim Rissouli et
Agnès Pizzini.
Voilà, on est au complet. Merci beaucoup d'être passé par Europe 1 ce soir.
Merci pour votre invitation.
Émilie Mazoyer, est-ce que vous êtes au rendez-vous
du
lundi?
Nathalie Lévy,
bonsoir,
je ne raterai ça
Émilie.
Pour rien au monde.
Dites-nous tout ce soir.
Ce soir ça va être très rock'n'roll avec un groupe un peu blues, un peu country qui s'appelle Dirty Deep, et ils viennent avec quelqu'un qu'on connaît bien, c'est Yarol Poupeau.
Ah oui.
Quand des fans de rock appuient leur force pour sortir un mini-album, il arrivera vendredi et dès ce soir, on va en discuter donc avec Yarol et Dirty Deep.
Yarol Poupeau qui a de quoi être fier de sa compagne Caroline de Maigret qui figure dans le classement Vanity Fair.
Oui, des septième, plus influents.
Exactement, à la 7e position des plus influents dans le luxe. Voilà.
On est
Merci beaucoup Émilie Mazoyer, à tout de suite.
C'était votre grand journal du soir, c'était avec Nathalie Lévy, on vous retrouve demain à 18h.
Merci à tous de nous avoir suivis, évidemment sur Europe 1, on est au rendez-vous toute la semaine pour écouter Le Monde Changer.